Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Bienvenue dans l'équipe est sauvage, emmenée par Mathieu Noël, la compilation du week-end. Parce que vous le savez, en semaine, les journalistes d'Europe 1, engagés dans une compétition arbitrée par Eva Rock, bataille à coups de chronique pour plaire à l'invité, dont le vote compte triple d'ailleurs. Cette semaine, ils étaient parmi nous Mathilde Amet, le plongeur photographe vidéaste Laurent Balesta, Isabelle Nanty, mais aussi Florence Servan-Schreiber, professeur de bonheur, et le comédien Jonathan Lambert. Tour à tour, ils vont donc découvrir les sujets de nos compétiteurs.
Se cultiver, comprendre le monde qui nous entoure sans pour autant se péter un neurone. Vous écoutez l'équipe est sauvage, deux heures d'une folle chevauchée sur l'indomptable étalon du savoir, avec Eva Rock derrière moi en Amazon qui donne de temps à autre des petits coups de cravache. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, il faut visualiser. J'en profite pour vous faire un bisou et vous dire merci, surtout si vous êtes venu de France Inter pendant la grève et que vous n'êtes pas reparti. Oui, Jean-Philippe.
En même temps, un auditeur de France Inter qui débarque sur Europe 1, c'est un peu comme s'il entrait dans un sex shop.
Oui, donc alors, restons fair play. Jean-Philippe Ballas est notre premier concurrent du jour. Avec quel sujet comptez-vous subjuguer nos auditeurs?
J'essaie de comprendre le truc, en fait.
Il faut faire attention de ne pas dire n'importe quoi hors antenne. Les micros tournent tout le temps ici. Alors, Jean-Philippe, vous nous emmenez, et c'est moins drôle, en Australie aujourd'hui.
Oui, en Australie, où on le sait depuis plusieurs semaines maintenant, il y a de terribles incendies. Il y a énormément de photos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Ce qui est assez troublant, c'est que celles qui sont le plus partagées, eh ben, soit elles sont totalement trafiquées, soit elles n'ont strictement rien à voir avec les incendies. Je m'explique.
Je comprends pas, Jean-Philippe.
Je commence avec cette image très forte, vous l'avez vue sans doute, d'une petite fille qui porte un masque pour respirer dans la fumée. Dans ses bras, elle tient un koala, une espèce qui est particulièrement touchée. Le tout en bord de mer, sur fond d'apocalypse. Alors on se dit, il y a absolument tout dans cette photo. Ça résume les incendies.
Trop, en fait.
Bah oui, parce que c'est un photomontage, en fait. Cette scène, elle n'existe pas dans la réalité. C'est un collage qui a été fait avec Photoshop par une Australienne qui ne s'en cache pas d'ailleurs, mais elle ne s'attendait pas du tout à ce que cette image devienne virale. Je suis allé voir d'ailleurs sur son compte Instagram, elle demande effectivement aux internautes de bien préciser chaque fois qu'ils partagent, bien préciser que la photo est truquée. Et franchement, à ce jour, je n'ai pas vu beaucoup de gens le faire sur les réseaux sociaux. Il y a une deuxième image.
Mais pardon, quelle était son intention? Parce que c'est bizarre de pas s'en cacher. Il y avait certainement une
bonne question. En fait, si vous allez sur son compte Instagram, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une artiste qui fait régulièrement des photomontages avec Photoshop.
Oui, là, c'est un symbole.
C'est un symbole, mais ce n'est pas en tout cas un témoignage d'actualité au sens strict. Il y a une deuxième image qui circule énormément. C'est cette carte d'Australie vue du ciel. On a l'impression que c'est pris d'une photo satellite et qui montre, alors là, on voit un continent entier en train de rougeoyer. On se dit que c'est l'Australie qui se consume littéralement sous nos yeux. Sauf que là encore, non, il faut être précis. Ce n'est pas une photo prise de l'espace en temps réel. En fait, c'est une image en 3D qui a été réalisée, reconstituée, un peu bidouillée à partir de données de la NASA, certes, mais sur une durée d'un mois d'incendie. On a tout ça sur cette image, donc forcément, tout est exagéré. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que le concepteur de ce travail, il dit lui-même, attention, ce n'est pas du tout la réalité. Moi, j'ai bidouillé, j'ai fait mon montage. Mais là encore, les internautes ne prennent pas trop de gants. Il y a même des exercices de mauvaise foi. J'ai vu hier des internautes qui disaient « Ok, d'accord, c'est pas la vraie image, mais quand même, ça résume bien la situation de ce qui se passe aujourd'hui en Australie. » Et puis, je vais terminer aussi avec des photos alors qui sont réelles, des photos de kangourous. Alors là, on voit des kangourous qui se font des câlins, qui se mettent dans les bras, notamment d'humains, un peu comme s'ils essayaient de récupérer face à la tristesse du désastre. Sauf que, bon, si on regarde un peu plus précisément, c'est des photos qui datent certaines de 2010, donc qui ont strictement rien à voir avec les incendies. Alors tout ça pour dire quoi? Qu'une fois encore, il ne faut pas partager n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus dingue que des vraies photos de ce qui se passe en Australie en ce moment, des vrais témoignages, il y en a plein et des images très spectaculaires. D'ailleurs, c'est toujours ce qui est un peu troublant avec le feu, c'est qu'on a un rapport quand même complexe et qu'on est souvent fasciné, en fait, parce qu'on voit. Et ça, c'est un rapport. Alors, je suis allé voir un peu
comme
ce que
disent... Notre-Dame, c'est ça, hein ?
Exactement. Ouais. Il y avait des témoignages de pompiers, notamment au moment de Notre-Dame, vous avez raison, Eva, des pompiers qui disaient, quand je suis arrivé face aux flammes, d'abord, j'étais hypnotisé et je trouvais ça beau. Et ça, c'est le rapport qu'on a au feu. C'est-à-dire que le feu, c'est quelque chose que l'homme a domestiqué. C'est le seul être vivant sur Terre qui a réussi à domestiquer le feu. Et c'est vrai qu'au départ, c'est la flamme de la bougie. C'est quelque chose qui nous réconforte, quelque chose qui est fragile aussi. Et puis qui devient, au bout du compte, un incendie qu'on ne peut absolument pas maîtriser. C'est ça aussi qui nous fait peur, c'est ça qui nous fascine, c'est ça qui entretient ce rapport très particulier avec le feu. Mais encore une fois, partagez pas n'importe quoi.
Effectivement, Jean-Philippe, j'étais hypnotisé, comme le feu. Ah oui, vous m'avez hypnotisé comme le feu, mon Jean-Philippe, avec cette embardée philosophique.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Avec bien sûr Mathieu Noël et Varrock et les invités de la semaine passée. Jeudi, c'est un invité en perpétuelle recherche d'émerveillement et découverte qui a répondu présent. Laurent Balesta s'immergeait dans l'ambiance de cette équipée sauvage.
Laurent Balesta, vous êtes plongeur, photographe, biologiste. On a parfois dit que vous étiez le Thomas Pesquet de la plongée. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que cette comparaison ?
Alors, ça ne me convient pas.
Pourquoi ?
Parce que ce n'est pas assez. Et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas assez.
Racontez-nous.
Je vais vous le dire. Parce que Thomas Pesquet, même s'il n'est pas allé sur la Lune, hein, on est d'accord.
En plus,
mais même s'il
est allé
sur la Lune, il lui faudrait à peu près, je crois, c'est 2 jours pour revenir de la Lune. Nous, il nous faut 4 jours pour revenir de 120 mètres de fond.
Ouais.
Déjà.
Pardon.
Et Thomas Pesquet, il a fait une sortie extravéhiculaire. Nous, on en faisait 2 par jour.
Voilà. Thomas Pesquet, ce tocard de l'espace, on peut le dire.
Par contre, non, mais la différence, il faut, c'est vrai que plein de gens comparent. C'est vrai, on a vécu dans ce truc enfermé. Il y avait un côté spatial, c'est clair.
Mais, et puis à côté, les derniers aventuriers.
Moi, c'est mon projet, je l'ai mené, j'ai pris mes camarades avec moi. Je ne suis pas le fruit, comme Thomas Pesquet, d'une sélection de dizaines de milliers de candidats. Ce mec-là est hors norme à tous les points de vue, intellectuel, physique, tout. C'est une espèce de super-héros. Enfin, voilà. Moi, si on avait, au début de mon projet, si on avait dit « Ok, c'est ouvert à tous, compétition », peut-être que je ne serais pas dans ma station. Hein. Il y aurait eu des meilleurs plongeurs, meilleurs photographes, meilleurs... Voilà. Donc, y a déjà ça qui, je pense, fait de ce gars-là un truc exceptionnel, c'est qu'on oublie le fruit de la sélection qu'il est, une sélection draconienne sur tous les aspects intellectuels, physiques, tout quoi.
Vous qui avez cette âme d'aventurier, justement, quand vous voyez Thomas Pesquet, vous vous dites pas alors la plongée c'est super, mais j'aurais pu choisir cette voie là aussi et j'aurais pu aller explorer les étoiles.
J'aurais pu, mais j'aurais pas réussi.
Ça vous en savez rien, pourquoi
oui,
pas.
Mais si, je connais, mais j'étais pas assez bon à l'école, j'étais pas, voilà, il faut pour être honnête.
Ah oui, il fallait avoir 20 en maths, quoi, c'est ça.
Oui, moi j'étais pas mauvais, mais j'ai pas à ce niveau-là, donc voilà.
Vous dites aujourd'hui, on a de meilleures cartes de la Lune ou de Mars que du fond des océans, c'est là qu'il y a encore des choses vivantes à découvrir, les extraterrestres, c'est au fond de la mer qu'il faut aller les chercher.
Ben oui, ça c'est sûr qu'on a les yeux tournés vers les étoiles, et moi aussi, hein, je suis fan de tous ces films qui se veulent réalistes en science-fiction, comme Interstellar, comme Ad Astra, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment. Enfin, moi, ça rend presque tellement dérisoire et ridicule nos propres expéditions, mais j'adore ça. Donc, voilà. Mais ne négligeons pas, d'ailleurs c'est la conclusion d'Ad Astra, il n'y a rien au fond de l'espace, regardons ce qu'on a. Et ben c'est ça. Et au fond de la mer, on a des mondes à explorer. C'est presque comme des mondes parallèles parce que si on regarde, depuis Thomas Pesquet, vu depuis l'espace, où étions-nous cet été? J'étais à La Ciotat. J'étais à Saint-Tropez. J'étais à Nice. Mais franchement, j'étais dans un monde parallèle. J'étais dans des espèces de récifs coralliens de la Méditerranée, bourrés de créatures dont moi, le spécialiste, j'ignorais même l'existence. Enfin, vous voyez, ça, c'est fascinant.
Vous parlez de l'ivresse des profondeurs. Parfois, on se demande si ce n'est pas une véritable ivresse. Vous dites, on a rencontré des licornes, des morues cuivrées, des bécasses de mer, des crabes araignées, des barbiers perroquets. C'est sobre, hein, vous avez découvert tout ça.
Non, mais en tout cas, j'aime bien la poésie de tous ces mots. Parce qu'on pourrait mettre les noms latins, alors là, c'est carrément imprononçable. Mais non, on a croisé tous ces animaux. Et encore une fois, tous les jours je croisais un animal, une créature que j'avais jamais vue avant, qui n'avait jamais été photographiée vivante. Ça, c'était un sacré privilège.
Tout ça, tout près des côtes. Alors, mon cher Laurent, si nous voulons, main dans la main, faire avancer la science, je crois qu'une expérience intéressante serait de prendre Evarock.
Ah ouais.
Sélectionner Evarock et de l'immerger par 120 mètres de fond afin d'étudier si le changement de pression a un impact sur son cerveau. Car Eva fait partie de ces gens pour qui tout est dur, de ces divas qui ressentent le besoin de dramatiser chaque événement de leur quotidien.
Merde, j'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Vas-y, maintenant.
Vas-y.
Maintenant. Voilà.
Alors Eva, je voulais te remercier.
J'ai juste dit que j'avais envie d'éternuer.
Vu que tout est compliqué pour vous, j'ai opté pour un thème de quiz qui ne va pas du tout avantager Laurent Balesta, puisque voici un quiz sur la mer et la faune marine.
Oh là là.
Vous jouez chacun votre tour, ça va être une boucherie ou une poissonnerie. Eva Rock, c'est par vous qu'on commence. Lequel a des oreilles? Le phoque ou l'otarie?
Aïe, je le regarde, Laurent Maestin, mais pas une seule seconde, il m'aide.
Ah non, moi j'ai l'esprit de compète. Hein.
Il va vous laisser couler.
Le phoque ou l'otarie, j'en sais rien. Le phoque.
Le phoque ?
Ouais.
Eh bien, c'est une mauvaise réponse. C'est l'otarie. Je vous rappelle que le phoque rampe, le morse a des défenses en ivoire. Et celui qui a une barbe mouchetée de blanc, c'est Édouard Philippe. Laurent Balesta, il existe.
Elles sont où les oreilles de l'otarie ?
Mais tapez sur Google. Laurent Balesta, il existe l'AFDDPP, l'Association française de défense du poulpe et de la pieuvre. Vrai ou faux ?
Waouh. Ben, en tout cas, je ne les connais pas. Alors, est-il possible que je ne les connaisse pas ?
C'est
ça
la question.
Ça
devrait vous aider à avoir la réponse.
C'est ce qui est beau. J'ai envie de penser que je ne les connais pas. Donc
non, vous
existent.
Êtes trop humble. Il n'existe pas, ouais. C'est faux. Par contre, il existe, et là, on va voir si vous la connaissez.
Il est peut-être temps de
les créer. Il n'est jamais trop tard. Il existe l'association du poisson rouge, où on vous explique par exemple qu'il faut éviter le bocal, mais privilégier un aquarium avec suffisamment d'espace. Tous les renseignements pour bien élever son poisson rouge sur poissonrouge.org.
On élève un poisson rouge.
Mais ça s'élève, un poisson rouge. Il faut avoir du respect pour l'animal, Jean-Philippe.
On est un peu loin de mes experts, là. Mais c'est pas grave, hein, j'ai un peu de temps. Donc.
Laurent Balesta et Varrock, vous jouez ensemble en janvier 2012 à San Francisco, au Steinhardt Aquarium. Trois femelles requins étaient seules dans le même aquarium et pourtant, il y a eu une naissance. Que s'est-il passé ? Trois propositions. 1. Un soigneur avait introduit dans l'aquarium un mâle pendant un week-end où personne n'était là. Pour la blague. 2. Une des femelles a conservé le sperme pendant 45 mois. Ou 3. Il y avait un mérou mâle dans l'eau. Ça a suffi. D'après vous, Eva et Laurent, vous jouez tous les deux.
Ah, allez-y, qu'est-ce que vous diriez
ou... la 2.
Ouais, mais moi aussi, c'est un peu dégueulasse, mais j'aurais dit la 2.
C'est
ouais.
Un peu dégueulasse et vous avez raison, tous les deux. La nature est parfois un peu dégueulasse. Une femelle a conservé le sperme d'un mâle pendant au moins 45 mois. La preuve en a été génétiquement apportée après examen sur le bébé requin. La femelle requin peut donc être fécondée sans ovuler au moment de l'insémination. C'est à ce jour le record de la plus longue rétention de sperme connue. Eva Rock. Comme les huîtres, les moules aussi peuvent avoir des perles. Vrai ou faux ? Chez Léon de Bruxelles, au détour d'un...
Non, c'est faux.
Petite plâtrée de moules.
Non, je dirais faux.
Vous dites faux ?
Ouais.
C'est vrai.
C'est vrai ! Oh. Et oui !
Ah bon ?
C'est une moule d'eau douce, Eva. La fameuse mulette ou moule perlière qui produit une fois sur mille une perle. À cause de cette spécificité, c'est une espèce protégée. Vous risquez un an de prison si vous portez atteinte à une moule perlière. Ce n'était pas notre intention.
Non, pas du tout.
Attention, cette question va vous départager, Laurent Balesta. Léon-Claude Duhamel, fondateur de la marque Kawé, était un écologiste avant l'heure car il a créé un institut océanographique. Oh, c'est dur à dire ça.
Oui.
C'est dur à dire. Un institut océanographique pour mieux connaître et protéger la mer, vrai ou faux. Le fondateur de la marque Kawé.
Qui s'appelait ?
Léon-Claude Duhamel.
Non, là je sais pas, je connais pas.
Mais je pense que vous dites c'est faux. C'est ça la réponse que vous voulez donner. C'est faux, c'est Paul Ricard. Eh oui, ah, il a créé un institut océanographique en 1970. Ça aurait été trop simple dans ce sens-là. Qui remporte ce quiz ? C'est étonnamment sur la faune marine.
Ouais, c'est
bizarrement,
bon.
C'est Laurent Balesta qui remporte le quiz. Un numéro spécial de rentrée, bonne résolution. On se laisse guider par notre invité, une experte justement, S Bonne Résolution, co-auteur de 3 kiffs par jour et La Fabrique à kiffs. Florence Servan-Schreiber est avec nous. Alors déjà, est-ce que c'est une bonne résolution que de prendre des bonnes résolutions ?
C'est une activité de début d'année.
Pas plus, ça n'a pas plus de valeur que ça.
Disons qu'il faut le prendre comme ça, parce que sinon on risque la déception.
Oui, ça c'est sûr. Vous continuez de nous distiller vos conseils pour qu'on démarre 2020 du bon pied, mais vous le savez ici, la psychologie positive n'a qu'un temps, puisque le fil rouge de notre émission, c'est la castagne. Chaque après-midi, les plus valeureux journalistes de la rédaction se foutent sur la gueule au service de votre culture G. Or, voici notre premier concurrent du jour, un des plus redoutables mais aussi un des plus sexy. Chaque matin, c'est un cortège de groupies qui l'attend devant Europe 1. Des femmes hystériques qui, en l'apercevant, en vrai, s'exclament romantique.
Putain, j'ai vu la mort, viens vite me faire un mot.
Anissa Mbidar. Ah oui, c'est ça votre quotidien, il faut que les gens le sachent quand même, hein. C'est pas simple. Hein. Alors Anissa Mbidar, vous êtes notre spécialiste innovation et vous avez décidé de démarrer 2020 en disant stop aux idées reçues.
Oui, mais est-ce que vous connaissez le classique, on est dans les transports, on est pressé, donc on monte les escalators 4x4 et on s'énerve dès qu'il y a quelqu'un qui reste planté sur la file de gauche.
Moi je suis français, je peux vous dire je m'énerve, hein. Je gueule.
Eh bien ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut savoir que c'est beaucoup plus rapide de rester immobile, debout dans un escalator,
non,
que de courir et de marcher.
pas comment, oui, ça peut oui, pas oui. être plus rapide, puisque si on est immobile, on est immobile, on va à la vitesse
non,
de l'escalator.
Non,
si
les escalators ont été conçus pour rester debout fixe et pas pour marcher ni grimper des escaliers. En fait, il faut savoir qu'une personne fixe n'a besoin que de 30 cm² pour être confortable. Oui. Alors que quelqu'un qui marche ou qui monterait des escaliers, lui, il a besoin de quasiment 80 cm².
Ah, ça crée
plus du double. Ce qui veut dire qu'on déplace deux fois plus, hein, plus de deux fois plus de monde sur un escalator quand les gens sont totalement immobiles que si les gens devaient marcher. Et ça a été prouvé au métro de Londres. On a commencé à mettre des panneaux pour obliger les gens à rester immobiles sur l'escalator. Et le résultat, c'est 27% de trafic en plus, 27% de personnes qui peuvent être transportées en plus dans les escalators. Donc en descend de la place, vous savez, la file de gauche pour les impatients, et bien en fait, on ne fait que ralentir tout le monde.
Donc il faut se foutre sur dans l'escalator, vous nous dites, Anissa, qu'il faut se foutre en plus à gauche et ne pas bouger.
Exactement, c'est la résolution 2020.
Oui, il faudrait que tout le monde le fasse.
Il ne faut pas être égoïste. Ouais. Il ne faut pas être égoïste. Ouais. Si tout le monde s'arrête sur l'escalator, eh bien, on va déplacer beaucoup plus de monde et beaucoup plus rapidement.
Eh bien, ça, c'est déjà un premier scoop 2020.
Alors, j'imagine le boulot. Hein. Vous imaginez tous les gens, restez immobiles.
Surtout en ce moment où les gens font n'importe quoi.
Il faut savoir que 75% des gens préfèrent rester debout sans se déplacer dans un escalator. Donc, il suffit qu'il y en ait un ou deux qui s'arrêtent. Les gens vont s'arrêter automatiquement. Donc, faites le bouchon. C'est mieux pour tout le monde.
On va vous gueuler dessus, mais créez le bouchon dans l'escalator, Florence.
Est-ce que je peux m'élever contre l'idée de rester statique? Je ne sais pas si vous savez, que...
Elle est contre.
Non. Je vais vous expliquer un truc. Il y a des gens, donc en effet, 75% des gens vont être très contents de rester sur la file de droite. Mais dans une ville, plus on marche vite, plus on est créatif. C'est-à-dire qu'on a des études qui montrent que plus on marche vite dans une ville, et Paris est une des villes dans laquelle nous marchons très très vite, plus il y a de brevets qui sont déposés parce que les gens ont eu des idées et donc ça fait partie de la vivacité d'une population et d'une ville. Donc il faut qu'il y en ait qui marchent vite quand même.
Moi je vous rejoins tout à fait là-dessus, Florence, parce que moi je suis extrêmement créatif comme chacun sait et je vais extrêmement vite puisque je suis en scooter. Alors vous dites aussi, Anissa, qu'on va plus vite.
Il faut marcher, Mathieu.
Ça marche pas en scooter ? En scooter on n'est pas créatif ? Ah mince.
Qu'est-ce que ce serait si vous veniez à pied ?
Oh mon Dieu, c'est... On la pique ! On la pique infâme ! Elle vient de perdre son point. C'est la première fois de l'année qu'elle me galde une vacherie. Enfin la première fois, je veux dire, de la saison. C'est un événement.
Que vous êtes déjà beaucoup.
Oui, c'est un compliment. Oui. Alors, vous dites, Anissa, aussi qu'on va plus vite sur la file de droite que sur la file de gauche, sur l'autoroute.
Oui. C'est un test qui a été effectué par Le Parisien, le journal Le Parisien, sur le périphérique, donc ça doit marcher aussi ailleurs. Quand il y a des bouchons, aucune file n'est plus rapide que l'autre.
Excusez-moi, mais là, il y a une faute scientifique dans votre raisonnement.
Pourquoi ?
Sur le périphérique, oui, parce que le périph' est limité à 70 km/h, on va de toute façon assez doucement. Donc là, sur la file de droite, parfois, ça va plus vite que sur la file de gauche.
Non. Attendez. Quand il y a des bouchons, aucune file n'est plus rapide que l'autre, d'abord.
Oui, ça
a été prouvé. Oui. Et quand ça roule, je parle à 3h du
quand
matin, etc., quand c'est fluide, eh bien la file de droite est quasiment aussi rapide que la file de gauche à 20 secondes près. Donc la file de gauche est quand même plus rapide, mais 20 secondes seulement de plus que la file qui est complètement à droite. Voyez, donc on a l'impression qu'en allant complètement à gauche, on va aller plus vite.
On a l'impression.
On fait 20 secondes de plus.
20 secondes dans une vie, vous imaginez. Hein.
Donc c'est pas grand.
Einstein Rock est là pour nous aider.
Non, mais j'y pense souvent.
C'est vrai, vous y pensez souvent.
Mais bien sûr. Et quand vous voyez des gens qui roulent à tout berzingue devant vous
qui
en scooter.
Surtout des gens qui ne respectent pas les distances de sécurité pour pousser les gens plus vite sur la file de gauche sur l'autoroute.
Mais c'est idiot. On a l'impression qu'ils ont des
sur l'autoroute. On a fait un calcul en roulant à 140 km/h au lieu de 120. Sur l'autoroute, on ne gagne que 8 minutes sur 100 km. Alors qu'on consomme plus d'énergie,
on
prend plus de risques, on peut faire un accident sans Sao Paulo. Puis on le rappelle quand même, vous savez, ceux qui se roulent au milieu, alors qu'il n'y a personne à dépasser, etc.
Ouais.
Ceux qui roulent au milieu, eh bien, c'est 35 euros d'amende. Normalement, on se roule au milieu, enfin, on se met sur la file de gauche que quand on doit dépasser, on est censé se rabattre. Ceux qui ne se rabattent pas, on l'oublie, mais c'est 35 euros d'amende. Donc en fait, c'est intéressant dans cette étude, c'est que ça montre qu'il faut rester un peu plus zen, pas zigzaguer, ça sert à rien de zigzaguer, qu'il vaut mieux rester sur la file de droite, parce que sur la file de droite, eh ben non seulement on est plus zen, mais en plus on va à 20 secondes aussi rapide que ceux qui sont en train de s'énerver sur la file de gauche.
On remercie Anissa Mbida. Anissa, vous êtes notre expert innovation. Quelle est l'innovation dont vous rêveriez pour 2020 ?
Une application qui permet de mesurer la qualité de son organe.
Merci.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Danseuse de formation marquée par un éclectisme remarquable, Mathilde Amé était venue nous parler de ses activités le 3 janvier dernier. On va donc en reparler cet après-midi dans cette compilation d'Équipée Sauvage. Et puis il y aura le quiz qui va l'opposer à Eva Rock. Mathieu Noël a choisi un vrai faux sur le mariage. Un petit clin d'œil à la pièce Le Banquet qui va reprendre là cette semaine, mardi jusqu'au 29 février au Théâtre de Paris. Mais Mathilde Amé a une autre actu.
Je vais présenter l'invité tout seul. Oui, bonjour allez-y. Mathilde Amé.
Bonjour.
Comédienne, auteur et depuis quelques années metteur en scène. Votre dernière pièce, Monsieur X avec Pierre Richard, est actuellement à l'affiche du théâtre de l'Atelier à Paris. Je le dis d'emblée, je suis très excité de vous rencontrer.
Ah bah tu m'étonnes.
Contrairement aux insinuations finaux d'Eva, pas du tout pour ça, mais parce que pour vous suivre de loin depuis quelques années, depuis notamment Le Banquet, j'ai l'impression que contrairement à beaucoup d'artistes qui à 35 ans on a l'impression qu'ils ont tout donné, qu'ils ont atteint leur apogée artistique. Vous, à l'inverse, vous avez su totalement vous réinventer en tant qu'artiste à un moment.
J'ai essayé, oui.
Vous avez réussi, Mathilde Amé. Vous avez le succès public, vous avez aussi le Molière, vous avez eu le Molière de la mise en scène pour Le Banquet. C'est une réussite.
Ah oui, parce que là, je me rassemble, en fait. Je rassemble toutes les disciplines qui m'ont traversée. J'ai été danseuse avant d'être comédienne. La musique est mon socle de base de vie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Il n'y a qu'une partie de ce que je savais faire qui était exploitée en tant que comédienne, mais il me manquait quand même des choses. J'avais envie de raconter des histoires et puis j'avais envie de trouver un langage qui m'est propre avec tout ce qui m'a traversé, toutes mes passions mélangées, quoi.
On va en parler longuement pendant ces deux heures, mais j'aimerais juste dire une chose. Quand on change de... Vous n'avez pas changé de métier, mais vous étiez essentiellement actrice. Là, devenir metteur en scène, c'est quand même un autre métier, auteur de pièces. Souvent, quand on change comme ça, qu'on bifurque, on a tendance à y aller un peu sur la pointe des pieds, à rentrer dans un registre classique. Vous, vos pièces sont, on va le dire, elles sont sans dialogue. Enfin, la marque de fabrique Mathilde Amé maintenant, c'est ça. Enfin, c'est quand même un concept, c'est très poétique, c'est très surréaliste. C'est vraiment un univers. Enfin, je ne sais pas, je suis impressionné.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc Mathilde Amé qui nous accompagne cet après-midi, alors que deux de ses pièces sont ou vont être jouées, Monsieur X avec Pierre Richard et Le Banquet. Deux pièces différentes avec néanmoins, je le disais, un point commun, au-delà de la poésie et du surréalisme qui en émane, l'absence de dialogue. Pourquoi se priver de la parole? Qu'est-ce que ça apporte?
Moi, j'ai envie de stimuler le spectateur. J'ai envie que l'espace théâtral soit un endroit où on voit quelque chose de très différent. Je déteste l'idée qu'on sache à quoi on s'attend quand on va au théâtre. Donc j'essaye de proposer un langage qui rend le spectateur un petit peu plus aigu dans son observation. Aussi parce qu'il y a beaucoup de paroles creuses, je trouve. Il y a beaucoup de paroles qui endorment. Il y a beaucoup plus de paroles nulles que de paroles virtuoses. Il y en a au théâtre, mais enfin, bon, je n'allais pas rivaliser là-dessus. Je trouve que tout a déjà tellement été écrit de manière géniale. J'ai cherché, moi, à créer quelque chose qui m'appartienne, un langage qui soit le mien. Et je trouve, comme disait Françoise Dolto, que tout est langage. Et que tout est parlant et tout est évocateur. Une démarche, une façon de s'asseoir, une expression, un geste de la main, tout raconte quelque chose.
Une grande précision, hein, c'est au millimètre, cette pièce, Monsieur X. Pierre Richard dit... Enfin, je réintègre mon univers avec Mathilda, celui de Keaton, de Chaplin, de Tati. J'en ai trop dit, le silence est d'or. Elle me propose de rêver avec elle de tout ce qui ne se dit pas et qui en dit bien plus.
Oui, mais je trouve que... on dit souvent que le corps trahit la pensée. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la vérité, finalement.
Et quel meilleur outil, pardon pour ce mot, que Pierre Richard, l'acteur du corps par
exactement.
Excellence.
Exactement, il y a eu Tati en France qui avait une signature corporelle. Aujourd'hui, c'est Pierre Richard, pour moi, l'acteur par définition du corps. Et moi, je travaille beaucoup sur le corps, sur l'expression corporelle. Et Pierre, c'était vraiment... Alors bon, j'ai écrit Monsieur X vraiment sur mesure pour lui.
Sur mesure pour lui. Ah oui. Et une autre question, pardon, il ne faut pas que je déborde sur cette partie, mais la musique d'Ibrahim Malouf, elle a été conçue dès le début, elle est venue se greffer sur Avant. D'accord, c'est là-dessus.
Ah, c'était conçu avant
tout
la
est fait
pièce.
Avant. Les sons, je les ai faits avant avec Guillaume Duguay qui travaille avec moi depuis le début. Parce qu'en réalité, quand j'écris, j'entends. Moi, je trouve que le langage sonore, le son a une force d'évocation qui est plus forte que la vision, puisque la vision s'arrête à ce qu'on voit. Or, le son, ça nous plonge dans le ressenti de façon très infinie, finalement. Donc, avec Ibrahim, on a travaillé avant.
Le son nous plonge dans le ressenti, ça tombe bien, on est en radio.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Les amis, ne nous laissons pas gagner par l'émotion, car c'est un moment très important et éminemment solennel aussi de l'émission qui se profile. Le quiz qui oppose l'invité à Eva Rock. Je rappelle les statistiques.
Ah, cette
cruelle pour Eva. 82 défaites pour seulement 3 victoires. Eva, essayez de vous souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé en vous les rares fois où vous avez gagné?
D'un coup, ça s'est allumé dans mon cerveau.
D'un coup, ça s'est allumé dans son cerveau. Le problème, c'est que visiblement, EDF lui a coupé le courant. Allez, on y croit, Eva. Moi, j'y crois pour vous aujourd'hui.
C'est vrai.
Mathilda, pour le quiz du jour, je voulais rendre hommage à la pièce Le Banquet. Le thème sera donc le mariage. C'est un vrai faux. Une bonne réponse vaut un point. Mathilda May, aux États-Unis, en Caroline du Nord, un mari trompé a porté plainte contre l'amant de sa femme. Il a réussi à le faire condamner à 750 000 dollars parce qu'il était responsable de la faillite de son mariage. Vrai ou faux ?
Oh, je pense que c'est possible aux États-Unis. Hein, tout est possible.
C'est la bonne réponse. Une loi datant du 19e siècle, encore en vigueur dans 5 États des États-Unis, le permet. Si une personne est responsable de la fin de votre mariage à cause d'actes injustes, vous pouvez demander réparation.
Encore, Eva Rock. Quoi, faut-il savoir ce que c'est qu'un acte injuste,
hein? Oui, bon, Eva, je ne vous demande pas de philosopher, je vous demande de répondre à la question qui suit.
Allez-y.
Le samedi 19 mai 2018, Meghan et Harry se disaient oui à Windsor. Un couple a été arrêté et a fait 3 jours de prison car il commercialisait sans aucune autorisation des préservatifs à l'effigie du prince et de la princesse.
Oh, c'est
vrai
drôle.
Ou faux?
Ah, j'ai envie de dire oui.
Vous avez envie de dire oui?
Ah, oui.
C'est votre réponse?
Oui, c'est ma réponse.
Oui, bah, c'est faux.
Ah bon?
Mais
c'est sympa
voir,
comme info.
C'est sympa quand même, vous allez voir. C'est faux. Tout a été commercialisé sans problème. Délicieusement lubrifié et fait d'un somptueux latex, c'était marqué sur la boîte. Les préservatifs étaient baptisés « joyaux de la couronne ». En anglais, il était également marqué « Your prince will come ». Ce qui peut également se traduire par « votre prince va venir, mais pas que ».
Bref. Mais alors c'était quoi? En fait, ils n'ont pas été arrêtés, c'est ça?
On avait juste le droit de les commercialiser.
D'accord.
Eva Rock, Mathilda May, l'année dernière, dans la ville des Zoubeaux, une petite commune du Calvados, une robe de mariée a fait la une de la presse locale. Pour quelle raison? 1. Parce qu'elle était faite en toile de parachute. 2. Parce que c'était la première robe de mariée pour homme portée dans un mariage officiel en France. Ou parce que c'était une robe de mariée combinaison de plongée pour un mariage qui a été célébré sous la mer.
J'ai envie de dire la deuxième, la robe pour homme, parce
pour
que homme, ça me plaît
aussi,
bien l'idée.
Ouais, moi aussi, j'en
vois
ça.
Vous suivez Mathilde Lamé?
Oui, je suis Mathilde Lamé sur cette réponse.
Vous suivez Mathilde Lamé, vous avez tort,
puisque
la réponse était effectivement une robe de mariée en toile de parachute qui a été offerte au musée du débarquement du Tabit. En toile de parachute, une robe, oui. Vous comprenez le lien? Vous vous souvenez de cet événement qu'on appelle le débarquement?
Vaguement, vaguement, je vois à peu près.
Il y avait des nazis en France, ils sont arrivés, les Américains. Une famille a offert la robe de mariée de leur mère qui avait été cousue à partir d'un parachute américain. Belle histoire, le mariage avait été célébré le 6 septembre 1944. Elle était dans un placard, elle pourra dorénavant être admirée en musée. Mathilda May, dans le vrai conte des frères Grimm, quand Cendrillon se... Pas dans Disney, dans le conte des frères Grimm. Quand Cendrillon se marie, ses méchantes sœurs se marient aussi, mais avec un âne et un bœuf. Vrai ou faux?
Je m'en souviens pas. Je crois que oui.
Croyez que oui?
Ah oui, ce serait marrant.
C'est faux, c'est encore plus marrant, puisque les frères Grimm, c'est vraiment pas Disney. Le jour du mariage de Cendrillon, ses deux sœurs se font crever les yeux par des pigeons. Il faut relire les frères Grimm, c'est très feel good, comme on dit aujourd'hui. Eva Rock, si vous êtes invitée à un mariage suédois et que vous portez du rouge, c'est que vous avez couché avec le marié par le passé. Vrai ou faux?
Ah non, c'est faux. Enfin, je pense que c'est faux, parce que vous imaginez les histoires pendant le mariage, ouais. Quoi.
Vous savez quoi, Eva? Vous êtes vraiment la plus nulle de toute l'histoire, parce que même sur un coup de bol, vous n'y arrivez pas. Pourtant, c'est vrai, Eva, le rouge est synonyme de tromperie en Suède. Normalement, aucun invité n'emporte, que l'on soit homme ou femme, c'est interdit.
Ah bah oui, mais c'est bah donc j'ai raison en
non,
fait.
Non, vous n'avez pas raison,
votre
vous avez faux. Elle
mal.
A facilement triomphé d'Eva Rock qui en même temps n'y connaît pas grand-chose en mariage. Mathilda May sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, sa complice Eva Rock, les invités de la semaine passée, les sujets des journalistes en compétition. Ici Jérôme Lacroix. On va découvrir son sujet. C'était mardi sur Europe 1 en présence du comédien Jonathan Lambert à l'affiche de la série Fête des Gosses sur France 2 qui a débuté mercredi. Et dans la série, Jonathan Lambert est un papa divorcé dont la fille est plus mature que son père.
Et le moment est venu de lancer l'alerte. La dernière fois qu'on les a vus, c'était au mois de juin 2019, alors qu'on sortait de la salle de sport pour se préparer à l'été. On arrivait presque à les distinguer nettement.
Les murs. muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile.
Des muscles dont on a depuis les fêtes plus aucune nouvelle. Pas un coup de fil, pas un SMS. Où sont-ils passés? Sont-ils, comme le pensent certains enquêteurs, enfouis sous une triple couche adipeuse, saumon, foie gras, marron glacé? Pour se donner les moyens de les retrouver, je vous propose d'écouter les conseils de l'expert sport d'Europe 1. Le sport rythme son quotidien, jusque dans les événements les plus intimes de sa vie. Avec sa femme, par exemple.
On fait la chose au coup de sifflet final de la première mi-temps.
Oui, tous nos voeux à Madame Lacroix. Jérôme Lacroix, dites-nous vite, comment perdre ces fameux kilos d'effets?
Je sais pas pourquoi, alors je sais pas si c'est votre cas aussi. Sans prévenir, moi, mon pèse-personne, là, il y a quelques jours, il est passé à l'heure d'été. Il a rajouté plus un. Voilà, alors, je me suis senti moins seul quand j'ai appris que, traditionnellement, pendant les fêtes de fin d'année, près de la moitié des Français, 46%, grossit de 1 à 2 kilos. Alors, bon, j'ai bien conscience que là, avec ce que je vais raconter, je vais en aider plus d'un. Déjà, je vous dis tout de suite, c'est pas la peine de vous lancer bille en tête dans des exercices exténuants. Des petits exercices de musculation courts et faciles peuvent vous aider. Alors, il y en a énormément, des millions et des millions. Il n'y a qu'à se balader sur Internet ou demander à un coach si vous en avez un près de chez vous. Moi, je vous en ai choisi d'abord un vraiment pour les néophytes. Je l'ai choisi parce qu'il fait travailler quasiment tous les muscles du corps et aussi le cardio. C'est ce qu'on appelle le jumping jack. Vous êtes debout, pieds joints, bras tendus le long du corps, oui. D'accord, et vous faites des petits bonds sur place, jambes écartées, pieds joints, jambes écartées, pieds joints. Vous voyez,
c'est un peu comme faire de la corde à sauter, voilà. Finalement. Là, Olivier Pouls, notre expert gastronomique, est en train de tenter l'exercice régie.
C'est très bien.
Et je peux vous dire, c'est pas beau à voir.
Et il faut rajouter des mouvements. Les bras, vous les amenez comme ça au-dessus de votre tête.
Mais ça, c'est Véronique et Davina.
Un clapping. Ben justement, je vais pas faire Véronique et Davina. Je vous ai choisi cet exercice-là parce qu'il fait tout travailler. Mollets, cuisses, abdos, lombaires, tout le monde travaille. Et sincèrement, c'est vraiment très efficace.
On sautille sur place en écartant les jambes.
Voilà.
Et les bras.
En revanche, voilà. C'est fatigant, hein. Faites par série de 10 en vous reposant, parce que sincèrement, notamment pour le cardio, c'est très fatigant. Un autre très bon plan, et pas cher, à partir de 7 euros, vous en parliez, c'est investir dans une corde à sauter, ça c'est tout bête. Deux petits bonds sur un sol un peu meuble si possible. Pensez à ménager les chevilles et les genoux, à faire en fractionné par tranche de 5 minutes. Oui. Ben non, mais vous pouvez le faire pieds nus d'ailleurs, on dit souvent pour faire un bon exercice physique, il faut des bonnes chaussures. La corde à sauter, c'est possible pieds nus. 10-15 minutes par jour, ça peut suffire.
C'est donc pas la peine de prendre un abonnement à la salle de sport et d'y passer des
heures. Mais on est beaucoup à faire ça. Il y a deux pics d'inscription à la salle de sport. C'est à la rentrée de septembre et après les fêtes. Hein, ça, c'est vraiment chiffre à l'appui. Pour perdre au mois de janvier, le meilleur des meilleurs sports, et là je le dis parce que moi c'est mon sport et ça fait unanimité, c'est la natation.
Mais bien sûr.
Voilà. Alors déjà parce que c'est un sport d'endurance. Là, ce qu'on cherche ici, c'est à brûler les graisses. Et pour ça, eh ben, il faut faire un sport d'endurance pour brûler les graisses. Une endurance qu'on fait dans l'eau, où on est soulagé en moyenne de 2/3 de son propre poids. On travaille donc énormément en douceur. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de vibration pour le dos, les articulations.
Oui, mais il y a des cons qui nagent pas assez vite dans la ligne d'eau. Et on passe notre temps à faire les voitures
cramponneuses. C'est pas vous qui vous
trompez. Oui, c'est peut-être moi aussi parfois, mais...
À la natation, tous les muscles sont sollicités également et vous faites une demi-heure à une heure par semaine et vous allez voir, vous allez commencer à constater des résultats. Franchement, c'est pas grand-chose. La natation, ça coche beaucoup de cases, mais il y a aussi, alors là, on va monter un peu en gamme en termes d'activité, il y a le vélo elliptique, le rameur, ça c'est un peu
c'est
plus
bon,
intense.
C'est bon ça, le rameur, c'est pas mauvais pour le dos.
Si, si, alors il faut faire très attention. Ah bah voilà. Là, on parle vraiment d'une remise un peu en forme après, si on a fait un peu l'opulence pendant les fêtes. Puis il y a aussi, bien sûr, le running, la course à pied. Alors je le mentionne parce que vous vous posez peut-être la question de savoir s'il vaut mieux faire du sport dedans ou dehors. Et bien sachez qu'en hiver, c'est très bien de faire du sport à l'extérieur parce que c'est la saison où le corps est le plus efficace parce qu'il ne se fatigue pas à se défendre contre la chaleur. Voilà, alors une fois que je vous ai dit de vous fatiguer un peu, je vous plombe le moral en vous disant que désolé, mais on ne peut pas perdre du poids en faisant seulement du sport.
Ah bon ?
Et non.
Il faut coupler ça avec une alimentation plus équilibrée
exactement,
qu'à Noël, c'est ça que vous voulez
dire ? Alimentation appropriée. Trois trucs très simples. Un, dites adieu au sucre parce que c'est l'augmentation de la sécrétion d'insuline.
Mais là, on est en pleine galette des rois. C'est
pas
possible.
Oui, mais c'est comme ça.
Le dites n'importe quoi.
Vous stockez les graisses. Deux, allez-y à fond sur les aliments qui brûlent ou qui retiennent les graisses dans l'estomac. Aubergines, avocats, ananas, citron, pommes. Voilà, vous pouvez aussi y aller sur les épices. Ça, on le sait moins. Ah. La cannelle, par exemple, parce que ça améliore la circulation sanguine. Donc, les contractions musculaires. Et puis, mon dernier conseil, mon préféré. Dormez. Parce que après le sport, on se
le
muscle.
Le mec, il dort jamais.
Non, mais après le sport, on se muscle quand on dort. Vous saviez ça ?
Quoi ?
Parce que le corps utilise ce temps pour consolider les tissus, en fait, de tout le corps, y compris les muscles.
Waouh. Mais ça, c'est un scoop.
C'est un point très important.
Je
de bien
sais,
dormir
Eva,
après le
Eva,
sport.
Calmez-vous. Vous désignez Jonathan Lambert, notre invité, qui est aussi, on le sait peu, un grand sportif. Vous avez couru le marathon, Jonathan Lambert.
Plusieurs marathons.
Plusieurs marathons. Ouais, vous avez couru le Ironman.
Non. C'est vrai que j'ai beaucoup couru, mais il faut le dire, ça peut abîmer les genoux, ça abîme. Voilà.
Le dos,
donc je me suis arrêté de courir, mais c'est vrai que oui.
Mais vous avez eu cette passion.
Ah oui, j'ai adoré courir. Mais voilà, je me suis mis à la natation justement. Ouais, maintenant.
Super. C'est plus sain la natation.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
2 heures pour parfaire sa culture générale. Oui, c'est l'équipée sauvage, le rendez-vous que nous donne Mathieu Noël tous les après-midi sur Europe 1 et le week-end. C'est la compile de la semaine passée. Jeudi, Thierry Geffrotin, engagé dans la compétition, était venu nous parler des balles du Nouvel An en présence du plongeur, photographe, naturaliste Laurent Balesta, présent au salon de la plongée sous-marine qui se déroule en ce moment à Paris, Port de Versailles, pour une série de conférences.
Laurent, le navigateur François Gabart nous disait qu'il avait croisé des océans de plastique dont on voit parfois les photos. Vous-même, dans vos plongées, vous avez constaté une dégradation de ce côté-là. Il paraît que dans la fosse des Mariannes, même dans la fosse des Mariannes à 11 000 mètres, il y a du plastique.
Oui, et il y a aussi des animaux.
Il y a les deux.
Je trouve que c'est, dans la fosse des Mariannes, c'est plus fascinant de se dire qu'il y a quelques créatures qui arrivent à vivre sous 110 bars de pression que le fait que des plastiques soient écoulés jusque-là. Je ne sais pas pourquoi on a cette fascination du pire. Bon, parce que c'est une réalité, hein, je comprends.
Peut-être
hein,
pour réagir.
Ça fait depuis le temps. On réagit qu'en façade. Hein. Après, dans les actes, moi le premier, j'ai mes contradictions. Donc, mais moi, après, oui, bien sûr que j'ai vu des endroits pollués. Mais je ne suis pas objectif. Je suis amoureux de la Méditerranée. Quand on est amoureux, on n'est pas objectif.
Vous nous parlez de votre amour de la Méditerranée. J'ai envie de parler d'un mot, d'amour tout court. Vous dites, il m'a fallu des années pour accepter la trivialité du quotidien. Il m'est arrivé de mettre fin à une relation amoureuse parce que je rentrais d'une expédition et qu'on me parlait d'aller acheter un canapé chez Ikea.
Oui, mais c'était il y a longtemps.
Ah, maintenant, vous avez réussi à concilier les deux.
Et ben c'est ça qui est beau. C'est ce qui est beau de, à un moment donné, s'y croire, être dans des expéditions, croire qu'on est encore au 19e siècle, où le monde attend vos découvertes, ouais. Se croire dans ce truc-là, et puis après, s'occuper de réparer l'étagère de la chambre de ma toute petite fille qui est née il n'y a pas longtemps. Ben voilà, j'ai mis longtemps à comprendre que le bonheur était dans ce spectre large de choses. Pendant longtemps, j'étais un peu trop monomaniaque, exclusif et très arrogant sur tout ça. Enfin, je dois l'être aussi encore. Mais...
Oh non, vous êtes trop humble.
Non, je ne lui... suis pas. Je suis prétentieux. Ne vous inquiétez pas.
Lui, Laurent, il ne connaît pas, comme vous, l'ivresse des profondeurs, mais il aimerait connaître rien qu'une fois l'ivresse de la victoire. Seulement voilà, Thierry Geffrotin, notre expert musique classique, a comme qui dirait le cul entre deux chaises. Déchiré entre un côté mes injonctions à parler Jones afin de reconquérir les 15-25.
Si j'étais informaticien, je dirais super, youpi, youpi.
Et les tags de nos invités attachés au respect de la langue française comme Michel Blanc.
Oui, c'est la sortie d'un nouvel album de Richard Galliano, le grand accordéoniste. Il fait un tribute, comme on dit aujourd'hui en mauvais français.
Un hommage, quoi.
Alors Thierry, ce soir, personne ne vous jugera. Venez comme vous êtes et parlez-nous de ce bal du nouvel an, de ces balles du nouvel an à Vienne, qui visiblement vous excite beaucoup.
Ah, ça m'excite. Vous connaissez la différence entre excité et énervé, je vous le dirai une autre fois. Oui, les balles à Vienne, c'est une tradition très, très vivace. C'est pas du folklore, hein. Vu de France, quand on rigole. Non. C'est un peu l'équivalent des feux d'artifice du 14 juillet en France, vous voyez. On y tient, en Autriche. Les plus importants ont lieu, en effet, à Vienne. Et ces balles célèbrent la nouvelle année. Ils ont déjà commencé, hein. Ils vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février.
Alors, qui organise ces balles ?
Ben c'est simple, tout le monde. Tous les métiers, toutes les corporations ont leurs balles. Les bouchers, les notaires, les fleuristes, les pharmaciens, les chasseurs, les ramoneurs, même les haltérophiles ont leurs balles.
Ça doit avoir de la gueule, hein, le bal des haltérophiles.
Je pense que ça doit... Oui, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et j'arrête vraiment parce que la liste est interminable. Au total, il y a près de 500 balles. Vous imaginez, la plupart ont lieu à la Hofburg, le palais impérial de Vienne. Mais le bal le plus important, à tout point de vue, hein, c'est à l'opéra, celui de l'opéra d'État, le Staatsoper, comme on dit en viennois ou en allemand tout simplement. Il a lieu en présence du président de la République, des corps constitués. C'est une soirée incroyable. On paye 300 euros. Si vous voulez une loge, c'est 30 000 euros.
Ouais.
Ah oui,
on peut quand même économiser un petit peu pour payer ça.
C'est énorme. C'est retransmis à la télévision. Ça va intéresser Eva. Part de marché, 60%.
Oh là, il y en a qui rêveraient de ça.
Vous imaginez ce soir-là. C'est assez... Moi, j'ai regardé parce qu'on peut le trouver sur les sites de streaming, sur YouTube, hein, notamment. Faut voir ça. Alors, ça commence d'abord par le corps de ballet, l'orchestre, avant que le bal ne débute. Donc, le Staatsoper, tout le bâtiment est réaménagé. On enlève toutes les chaises de la salle. C'est incroyable, c'est énorme. Et il y a des milliers de participants à ce bal.
Et l'impératrice ici revit avec ses bals.
Oui, c'est exactement ça. Vous le dites. Oui, c'est ça. Tout semble figé dans le temps. Alors, les bals suivent un cérémonial immuable. Les femmes sont en robe du soir, évidemment. Les hommes en smoking ou en queue de pie. Les débutantes, parce que d'abord, le bal s'ouvre avec les débutants et les débutantes. Les débutantes de blanc vêtues, avec une couronne dans les cheveux, un bouquet de fleurs à la main. Et les cavaliers, ils ouvrent le bal avec une polonaise, après le traditionnel... Alles Walzer. Ah oui, tous les bals, c'est ça. Alles Walzer, que tout le monde valse.
Ah,
et
d'accord.
C'est parti pour une nuit de folie. Par exemple, le bal du Staatsoper, ça commence vers 22h et ça se termine à 5h du matin. Ah oui, c'est pas ça.
Oui.
Je vous dis que c'est pas
mais
du folklore.
Mais à la fin, ils sont toujours aussi que tout ça, ou ça, c'est un petit peu cravate
sur ils se lâchent. Et au petit matin, si vous allez à Vienne, et vous les retrouvez, bon, ils sont pas très frais, et vous les retrouvez tous ces gens qui sont, je vous rappelle, habillés comme pour aller à une noce, ils sont autour d'un stand à saucisses ou d'un goulash au restaurant.
Ah, ça finit, ce que j'aime bien avec Thierry Frotin, c'est qu'on est toujours dans la classe, un peu dans la musique, et ça finit toujours par une saucisse. Donc tout le mot saucisse est prononcé dans chacune de ces chroniques, et c'est pour ça que je
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël et Eva Rock, l'émission qui cajole nos neurones et nos papilles aussi. C'est l'heure de Délices in Extremis, la recette dernière minute qui nous sauve la mise avec Olivier Pouls et avec Mathilde Amé, invitée vendredi dernier à venir nous parler de la pièce Monsieur X au Théâtre de l'Atelier à Paris avec Pierre Richard et une musique originale du trompettiste Ibrahim Malouf que Mathieu Noël avait d'ailleurs reçu le 5 décembre dernier.
Et avec Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, la rencontre a été magnifique. Jusqu'à ce qu'Olivier tente de prononcer le nom d'un plat libanais. Là, on peut le dire, la barrière de la langue a un peu cassé l'ambiance.
Et est-ce que vous connaissez, alors c'est pas un mauvais jeu de mots de Mathieu Noël, les ricaca?
En fait, ça se prononce pas comme ça, en fait. En vrai. C'est l'arabe, ça se dit ra'at.
Vous pouvez redire
ra'at, ouais.
Ah oui, non, ça, là, oui.
Bonjour, Sidi Pouls.
Mais, il rigole.
Mais ne riez pas, dites bonjour quand même.
Bonjour les amis, bonjour Mathilde. Mais ça va être un peu plus facile à prononcer aujourd'hui. Ah. Galette des rois, ça se dit de manière assez simple, je pense.
Oui, dès qu'il y a du beurre, vous êtes plus à l'aise.
Pas de traduction.
Alors dites-moi Olivier, on peut préparer soi-même sa galette des rois?
Ben oui, évidemment. Alors, des galettes des rois, il en existe en fait de plusieurs sortes, puisque la France se divise, on va dire, en trois grandes catégories. Vous avez ceux du Nord qui mangent cette galette qui est constituée de pâte feuilletée et de frangipane, qui est un héritier d'un gâteau du 18e siècle qui s'appelle le pitivier. Et c'est la grande majorité des galettes des rois qu'on va trouver. Mais ma chère Eva, par exemple, vous qui êtes du Sud, vous ne mangez pas ça, vous en mangez une autre galette.
Oui, on mange la galette briochée avec les fruits confits.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Eh oui.
Oh !
Oui, c'est très
c'est
bon.
Sacrilège ?
Non, c'est très très bon.
Eh oui, c'était pas exactement la même. Et puis dans l'est de la France, il y en a même une troisième, et c'est celle-là que je vais vous proposer de faire parce qu'en réalité, c'est la plus facile. La vraie galette traditionnelle avec la pâte feuilletée, avec la frangipane, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. On va plutôt aller la chercher chez son excellent boulanger-pâtissier. Mais la galette franc-comtoise, qui est une délicieuse galette, est extrêmement simple à faire. Et c'est la recette de celle-là que je vais vous donner. Roulement de tambour. En réalité, la recette de la galette franc-comtoise, c'est la recette de base de ce qu'on appelle une pâte à choux. Donc il vous faut 4 œufs, il vous faut 1 demi-litre de lait, toujours entier, hein, un peu plus gras que le lait demi-écrémé, vous m'excuserez, mais c'est quand même le goût, 200 g de beurre, il vous faut 50 g de sucre en poudre, et puis surtout, ce qui est important dans cette galette, c'est l'extrait de fleur d'oranger. C'est ça qui va parfumer et donner ce goût si caractéristique à la galette franc-comtoise. Alors c'est très simple, hein. On casse nos œufs, on rajoute le lait, on fait fondre le beurre tranquillement, on rajoute le sucre, on mélange tout ça, on fait une jolie pâte qui doit être bien lisse sans le moindre grumeau. On rajoute un petit peu d'extrait de fleur d'oranger et puis on met ça dans un moule à gâteau. On va légèrement dorer le dessus avec un petit peu de jaune d'œuf qu'on aura gardé pour dorer votre galette quand elle va commencer à cuire. Donc four 180 degrés, vous enfournez pendant 25-30 minutes et à mi-cuisson, au moment où vous voyez que la galette a commencé commencez à prendre, avec un petit pinceau, vous la badigeonnez pour lui donner une jolie couleur dorée. Vous n'aurez évidemment pas oublié d'aller glisser une petite fève dedans juste avant de la préparer, enfin de l'enfourner. Et puis, il n'y a plus qu'à la déguster. Elle se déguste chaude ou elle se déguste tiède. Et vous allez voir, c'est une texture qui est très intéressante. C'est une galette facile à faire et que je trouve personnellement absolument délicieuse parce que j'adore la fleur d'oranger.
C'est la question que tous nos auditeurs fidèles se posent. Est-ce que c'est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur?
Alors, ça peut être légèrement croquant à l'extérieur, mais ce qui est sûr, c'est que c'est totalement moelleux à l'intérieur. Et puis, c'est surtout une galette un peu originale.
Ah, c'est bien l'essentiel.
Qui vous permettra de, quand même de vous la ramener un petit peu en disant il n'y a pas que de la galette des rois à la frangipane et avec de la pâte feuilletée. Il y a aussi cette galette très typique et très traditionnelle qu'on sert dans l'Est de la France.
Merci beaucoup Olivier Pouls, et vous passerez à la maison, c'est vous que je mettrai sous la table pour choisir la part de tarte, part de galette des uns et des autres. En tout bien, tout honneur, évidemment, mon cher Olivier, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage.
Vous écoutez 2 heures de découverte, de bonne humeur. Hein, vous le savez, chaque après-midi sur Europe 1, les journalistes de la rédaction s'affrontent au service de votre culture générale pour gagner le titre de chroniqueur du jour avec le sujet qui vous aura le plus captivé. À l'arbitrage, il y a bien sûr Eva Rock. Et puis, je rappelle que cette compétition se déroule sous l'œil d'un invité d'honneur dont le vote compte triple. Alors, parmi ces invités cette semaine, il y avait Mathilde Amé, le plongeur Laurent Balesta, Jonathan Lambert, bien sûr Florent Séverin Schreiber, professeur de bonheur, et puis Isabelle Nanty, une actrice qui a formé toute une génération de comédiens et de comédiennes et qui sont aujourd'hui d'ailleurs en haut de l'affiche.
Avec notre invitée d'honneur Isabelle Nanty qui va maintenant répondre à la question rituelle lorsque nous abordons ce sujet. Nous allons voir si vous êtes meilleure actrice que Vincent Delerme. Vous êtes de la génération E.T. Vincent Delerme. Quand vous étiez gamin et peut-être toujours aujourd'hui, vous êtes fasciné toujours par l'espace?
Eh ben, pas du tout.
Bon, alors, roulement de tambour, Isabelle, vous aimez l'espace?
J'adore.
Ah, voilà une actrice formidable. Pour en parler, il est notre ultime concurrent du jour, vieux briscard de l'astrophysique, il dirige la revue Ciel et Espace, et vu les regards que vous échangez depuis tout à l'heure, Isabelle, je devine que vous vous connaissez.
Oli, c'était formidable.
Oui.
Et on faisait ça en écoutant les chœurs de l'armée rouge.
Oui.
Et moi, ça me mettait dans un état.
Bien. Alors, je crois qu'il est temps de vous écouter. On a découvert une nouvelle planète, dites donc.
Alors ça, c'est vraiment la première chose qui est extrêmement importante. C'est que c'est pas la première planète qui ressemble à la Terre, qui tourne dans un endroit où... on va dire qu'il fait ni trop chaud ni trop froid, ce qu'on appelle la zone d'habitabilité.
On sait combien il fait
sur cette
planète.
Ce qui n'est pas le cas de la Terre.
Mais bon, je la laisse aux autres. Je m'intéresse à l'univers, mais la Terre, pour le coup, il y a beaucoup de monde. Et en fait, pour répondre à la question de Mathieu Noël, les extraterrestres existent-ils?
C'est une obsession que je lui pose à chaque fois. Et donc, à chaque fois, il est incapable de me répondre. Le mec dirige ciel et espace. Il ne peut pas me dire si oui ou non les extraterrestres existent.
Mais la communauté scientifique s'est mobilisée depuis des années pour répondre à cette question. Et le problème, c'est que tout ça, c'est très loin, c'est très difficile à voir. Et quand on détecte une planète autour d'une autre étoile, depuis 1995, on en connaît plus de 4000.
Ah,
en fait, on ne les voit pas. Donc, on ne les voit pas parce que c'est trop petit, trop faible. Les étoiles sont trop lumineuses. Je dis toujours, c'est comme si vous essayiez de voir une luciole tournant autour d'un phare à Marseille depuis Paris. Vous voyez la difficulté. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des astuces. Mais bon.
Mettre des lunettes déjà.
Alors mettre des lunettes déjà. Et en fait, la solution se trouve dans la lumière. Et un des systèmes, et c'est ça l'annonce d'hier, c'est qu'on voit de temps en temps passer une planète devant son étoile, ce qu'on appelle un transit. La lumière baisse, pas beaucoup, un centième, mais on sait qu'elle est là.
Alors celle d'hier qu'on a découvert, qu'est-ce que c'est que cette planète?
Alors, c'est une planète découverte par un satellite américain qui a été lancé exprès. Donc
je croyais que c'était par un jeune.
Pardon?
Je croyais que c'était par un jeune garçon.
Mais la cible, c'est-à-dire l'étoile visée, fait l'objet d'une enquête spéciale. C'est-à-dire que toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Les étoiles sont comme les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes parentes, mais toutes différentes. Vous avez des gros, des petits, des moyens. Le Soleil, c'est un bon pépère. Hein. Il est plutôt assez gros et tout, mais 80% des étoiles sont plus petites. Et l'intérêt des petites étoiles, c'est qu'elles brillent peu, beaucoup moins. Elles sont moins énergétiques. Donc, on a plus de chances de voir, entre guillemets, dans le futur, des planètes tourner autour, parce qu'elles sont moins éclairées par la lumière de l'étoile. Donc, on cherche des étoiles faibles. Et on fait ça de façon systématique. On observe des centaines de millions d'étoiles avec des instruments, et puis ensuite on les passe sur les ordinateurs, on regarde si elles sont petites, si elles sont grosses. Sauf que les ordinateurs ne sont pas capables de tout faire, et on utilise aussi ce qu'on appelle des amateurs, ce qu'on appelle la science participative, c'est-à-dire des citoyens, pour simplement sur leur ordinateur regarder les étoiles, regarder ce que les spectres des instruments ont donné, et puis on clique en disant ça c'est petit, ça c'est gros, ça c'est petit, ça c'est gros, parce que finalement l'ordinateur ne voit pas tout. L'être humain a cette capacité encore à être supérieur à la détection des robots.
Et alors, donc
cette étoile-là avait été mise par les ordinateurs dans les grosses étoiles, donc impossible à observer. Et ce garçon qui est passé par là, dans la science participative, qui faisait partie de l'expérience, a cliqué « Non, pas du tout, ça c'est une petite étoile ». Et donc, on a rectifié, en fait, un garçon, un lycéen, mais il y en a plein d'autres, c'est du public, quoi. Clique dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous parle de deux choses. Un, c'est qu'on a toujours besoin des hommes, même pour des grandes données astronomiques. C'est-à-dire, il y a des milliards et des milliards de planètes et de soleils autour de nous, mais l'œil humain reste encore extrêmement important pour la détection. Puis, deuxième chose, c'est le hasard. La découverte, ce qu'on appelle la sérendipité, vous savez, c'est-à-dire tout d'un coup, celui qui passe par là, il y avait un prof qui disait la sérendipité, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, il découvrait la fille du fermier et l'épouser. Et je trouve que c'est très beau parce que ça veut dire que même si aujourd'hui, des ordinateurs, des satellites et plus tard, des instruments spécialisés regarderont ces planètes, à la base, eh bien, ça peut être un garçon, une fille qui regarde des oiseaux, les papillons, clique sur l'étoile de mer parce qu'elle la trouve jolie, etc., qui contribue à la science et qui va faire que tout d'un coup, eh bien, on va voir une planète là où on pensait qu'il n'y avait rien.
Et est-ce qu'on pense, ces planètes qu'on trouve de temps en temps dites habitables, c'est juste pour la beauté du geste qu'on les découvre, ou est-ce qu'on peut imaginer un jour d'y aller?
Alors, y
aller,
non.
Trop loin.
Y aller, non,
très
parce loin, que c'est là. Beaucoup trop loin. L'étoile la plus proche, avec une fusée actuelle, il faudrait 40 000
d'accord, donc c'est
années
foutu.
Pour y aller. Mais ce qu'on espère voir, c'est des signes d'activité biologique dans l'atmosphère de ces planètes. Et je pense que dans les années qui viennent, on pourra répondre au début de la question que vous posez, c'est-à-dire,
y a-t-il des vies,
est-ce que quelque chose respire?
Et ça, c'est la définition de la vie. Il faut que ça soit un organisme qui respire.
Pour l'instant, on ne connaît que la Terre. Et c'est très difficile de dire à quoi ressemble la vie. Surtout que quand on se demande comment elle est apparue sur Terre, en fait, on n'en sait rien. Donc oui, c'est compliqué.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipée sauvage.
Lundi, pour bien débuter la semaine, Mathieu Noël et sa bande accueillaient l'auteur de « 3 kiffs par jour ». Florence Servan-Schreiber, qui détaille sa méthode pour garder le moral basée sur la gratitude. Et elle était venue aussi nous parler des bonnes résolutions de l'année 2020.
Pour démarrer doucement, dans l'équipée sauvage, on a commencé par prendre la bonne résolution, de prendre une coach en bonne résolution. Florence Servan-Schreiber, expert en psychologie positive, nous accompagne tout au long de l'après-midi. Hors antenne, durant la pub, vous avez fait une séance de coaching individuel à Eva. Ensemble, vous avez défini que son objectif principal en 2020 devait être, je cite, « de progresser en géographie afin de ne pas saloper la promo de nos invités ». Remember Jérôme Commandeur.
Oh non, toute la France, alors du 8 au 11 janvier par exemple à Bordeaux, mais Biarritz, Strasbourg, Lourdes, Dijon.
Alors je crois que c'est Ludre qui est Nancy.
Ah c'est Ludre, pardon, oui j'ai mis Ludre, c'est Ludre.
Parce que Lourdes...
Mais vous pourriez à Ludre.
Oui.
oui, il pourrait. Alors Florence Servan-Schreiber, maintenant qu'Eva sait ce qu'elle a à faire, reste nous et nos auditeurs. Et c'est une question un peu paradoxale qui me vient, cette obsession, voire avec l'explosion des livres de développement personnel, cette injonction au bonheur, est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que ça risque pas de nous stresser de voir tous ces livres? Moi quand j'arrive à la FNAC et je vois tous ces livres, comment être heureux en faisant ci, ça? Ça me stresse.
C'est marrant parce que tout le monde parle d'injonction au bonheur. Je voudrais juste nous rappeler quelque chose qui est que la vie se charge toujours de nous remettre à notre place. C'est-à-dire que dès qu'on se sent un peu embarqué en se disant « ça y est, c'est bon, je maîtrise, je sais », tac ! Il se passe quelque chose et la réalité revient au galop. Et ça se passe dans la journée, ça se passe dans l'heure, ça se passe dans la semaine. Et ça va toujours se produire. Donc je trouve au contraire que c'est très utile d'avoir quelques armes et de s'être entraîné quand ça va à peu près bien. Et justement, ces livres servent à ça, s'entraîner à peu près quand ça va à peu près bien, pour se préparer pour le jour où ça se complique. Or, ça se complique. On se prend des autobus dans la figure, tous, quand ils roulent. Hein, mais bon, ça y est, ils se remettent à rouler. mais c'est pas très drôle, mais ça nous arrive absolument tous. Et heureusement, et à ce moment-là, nous avons un processus, on se remet en marche.
Les doigts se lèvent de toutes parts. Anis Embide.
Oui, je disais, puis il n'y a qu'à regarder les infos hein, pour être déprimé. Hein.
C'était une belle intervention. Oui. Eva, peut-être
mais
une meilleure intervention.
Quand je vous écoute, ça veut dire qu'il y a une forme d'universalisme
pour nous tous en ce qui concerne à la fois le bonheur et le malheur. C'est-à-dire qu'on est tous, on a tous la même proportion à ça.
Au-delà des conditions sociales, parce que moi j'ai envie de vous dire, attendez, si vous naissez dans un pays où vous avez 2 dollars par jour pour vivre, vous allez être moins heureux que quelqu'un qui...
2 dollars par jour vous complique prodigieusement l'existence pour des fonctions de base. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il y a une espèce de hiérarchie dans ce qu'il est possible de ressentir. Mais une fois que nos besoins basiques sont pourvus, tout le monde aspire au bonheur. Ne partez pas du principe qu'il faut de l'argent pour être heureux ou il faut des conditions spéciales pour être heureux. Vous imaginez, l'aspiration au bonheur est une conscience que nous avons absolument tous. Elle est ancrée, c'est comme ça. Et elle est absolument accessible partout.
Alors, vous expliquez dans votre livre La Fabrique à Kiff et dans vos conférences que chaque être humain peut avoir une influence sur 40% de sa vie, enfin 40% de bonheur, une part de 40%.
Précisément.
D'où vient ce chiffre ?
Précisément, il y a une partie génétique pour la capacité à ressentir du bonheur. C'est-à-dire que nous avons différents... Vous savez, on sécrète des neurotransmetteurs dans le cerveau, la dopamine, les endorphines, le cytocine, la sérotonine, etc. Ce sont des substances qui font qu'on se sent formidablement bien. Nous n'avons pas la même structure. Donc, il y a des gens qui vont en sécréter plus et puis des gens qui vont en sécréter moins. Bon, ça, c'est la base.
Ça, on y peut rien.
Mais c'est comme la taille. Hein. Il y a les grands, il y a les petits. Moi, je suis quelqu'un de petit. J'informe les grands, ici présents, nos éditeurs et nos auditrices, qu'on vit très bien à mon altitude, hein, qui est pourtant assez, assez basse. C'est exactement pareil, nous allons faire avec ce que nous avons, on n'a aucune idée de comment ça se passe dans la tête des autres. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, ça, c'est déjà un facteur. Ensuite, il y a les conditions extérieures, bien sûr, la météo, l'argent dont on dispose, l'environnement familial dans lequel nous nous trouvons, mais en fait, ça compte pour 10%. Seulement, alors qu'on imagine que c'est ça qui fait la différence. Et donc, il reste 40% qui va dépendre de nos comportements et de notre interprétation, comment je regarde ce que je vis, parce qu'il y a 1000 façons de vivre exactement le même événement.
Donc, en gros, 40% de notre bonheur ne dépend que de nous.
Peut dépendre de nous.
Peut dépendre de nous, en tout cas. Vous conseillez aussi, parmi les petits conseils comme ça, de boire beaucoup d'eau pour le corps et aussi pour le cerveau.
Alors, ça, c'est autre chose. Lorsque notre cerveau est déshydraté de 5%, donc c'est rien, hein, il suffit d'avoir bu un café sans boire de l'eau derrière, nous perdons 20% de nos capacités cognitives. C'est-à-dire qu'on comprend moins bien, on retient moins bien. C'est une éponge. Si vous regardez, nous conservons de l'eau, nous stockons de l'eau partout dans le corps. C'est mal fichu. Donc, dans des endroits, on s'en passerait bien. Mais le cerveau n'a aucune citerne. Il ne garde pas d'eau. Donc, il faut qu'il soit traversé par de l'eau absolument en permanence pour être optimal. Et quand on voit des personnes âgées, justement, qui vont commencer à décliner, très souvent, elles sont déshydratées et le cerveau va finir, c'est un peu comme les réducteurs de tête, le cerveau va finir par se dessécher comme un pois chiche si on ne l'hydrate pas. Donc,
Mon Dieu,
pense à boire de l'eau.
Faites attention. Boire plus d'eau.
Ah non, mais moi, je bois, vous inquiétez pas.
Ça, je sais, je sais.
C'est de l'eau seulement.
Oui, mais c'est le problème. Et dans une deuxième partie, on va spécifier ce que vous devez boire. Parce que je ne suis pas sûr que vous avez tout à fait compris.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Parmi vos nouveautés à vous pour 2020, il y a la sortie d'un livre, c'est ce que vous avez annoncé sur votre site internet. Ça va être quoi ce nouveau livre ? Après, La Fabrique à Kiff.
Alors, je crois que nous avons de plus en plus besoin de gérer notre bien-être, en tout cas d'essayer de contrôler un petit peu les choses, dans des choses très intimes qu'on peut vraiment faire tout seul. Il y a un truc qui est extraordinairement puissant, extraordinairement accessible, parce qu'on sait tous le faire, c'est l'écriture. On n'écrit pas pour être publié. Quand on écrit pour soi, une écriture intime, ou lorsqu'on va sortir nos textes et les partager avec d'autres gens, il y a plein de façons de le faire. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant sur la façon dont on synthétise tout ce qui nous arrive. Et c'est presque comme une thérapie gratuite, actionnable, absolument n'importe quand. On ne sait pas ce qui va nous arriver, on ne sait pas où va le monde. Donc plus nous sommes équipés dans nos poches, sur place, avec un stylo, plus nous serons puissants sur ce qui va pouvoir se passer. Donc c'est ça, c'est sur l'écriture qu'il faut
dire. Sur l'écriture, les joies et les vertus thérapeutiques presque de l'écriture. Alors, et au fait, quelles sont vos bonnes résolutions à vous pour 2020 ? On est allé vous poser la question.
La résolution, alors, je vais quand même, comme d'habitude, un peu de sport.
Non, moi, arrêter de manger des gâteaux.
Je suis parfaite, alors j'ai pas besoin d'avoir de bonnes résolutions. Je continue comme j'étais.
Être plus éco-friendly, peut-être.
Oui, j'ai fait de la gymnastique aussi, j'ai envie de vous dire.
Je lave une jambe, je peux pas lever les deux en même temps parce que je tomberai.
Moi, il n'y aura pas de bonne résolution parce que je vais tenir celle de 2019 que j'ai pas tenue. Non, c'est compliqué, hein, comme.
Mais moi, j'ai 77 ans, il y a longtemps que je sais que les bonnes résolutions, c'est pas au jour de l'an qu'il faut les prendre, c'est à Noël. c'est plus facile de les tenir jusqu'à la fin de l'année.
Ça c'est pas con, c'est monsieur. Génial. Il a raison, Florence Avant-Chabert. C'est pas mal comme astuce.
Très organisé.
Avant la fabrique à kiff, il y avait eu 3 kiffs par jour, oui. Best-seller. Quel est le concept des 3 kiffs par jour? S'il y a une bonne résolution pour 2020, c'est celle-là.
C'est celle-là. Le concept est très simple. Les chercheurs ont démontré que plus nous éprouvons de la gratitude, c'est-à-dire un élan qui consiste à dire merci pour quelque chose qui se passe, que l'on ressent, que l'on vient de traverser, plus nous sommes satisfaits globalement de notre vie et plus nous allons vivre longtemps, parce que ça a une influence sur notre système immunitaire. Donc, j'ai voulu l'expliquer à mes enfants, parce que je trouvais ça assez sympa qu'ils puissent vivre longtemps et dans de bonnes conditions et satisfaits de leur existence. Et comme ils étaient assez petits à ce moment-là, ce qui est sorti de ma bouche au moment où je leur ai dit « Bon ben voilà, si on est capable de trouver, parce que c'est ça qui a été démontré dans des études, si dans une journée nous sommes capables de trouver 3 situations pour lesquelles nous éprouvons de la gratitude, j'ai dit si nous sommes capables de trouver 3 kiffs, nous allons vivre plus longtemps et en meilleure santé. » Ils ont compris immédiatement. Et c'est devenu chez nous un rituel, c'est-à-dire qu'on fait ça à table le soir en disant ouais. Bon, ben pas tous les soirs, hein, sinon on s'habitue trop, donc il faut quand même que ça ait une certaine valeur. Et donc il faut bien savoir que cet entraînement, lorsque nous sommes capables de le faire, c'est quoi? C'est j'arrive donc quand les métros reviendront, j'arrive sur le quai en même temps que la rame. Il y a des gens qui ne voient rien. Et puis, il y a des gens qui se disent « Waouh,
c'est pile le bon
génial
moment.
Merci !» Donc, ça, c'est éprouver de la gratitude. Et ça, c'est muscler notre cerveau à percevoir le meilleur de ce qui nous arrive.
Oui, en gros, on a tendance à voir que ce qui ne va pas, alors qu'il y a plein de choses qui vont bien et on ne s'en rend pas compte.
C'est fait exprès parce que ça sert à réagir au danger. Mmh. Donc, c'est très important de voir ce qui ne va pas. Mmh. Mais si on laisse faire la nature, on passe à côté du meilleur. Donc, c'est ça.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h.
Il est 17h24, tout juste, et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes avec Mathieu Noël, bien sûr, sa complice Eva Rock, c'est la compilation de la semaine. L'équipe est sauvage, c'est aussi une compétition, vous le savez. Et vendredi dernier, eh bien, notre expert en littérature avait choisi d'évoquer un célèbre roman paru en 2 volumes entre 1868 et 1869.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes continue. Des journalistes dont certains, après 4 mois d'émission, n'ont toujours pas compris que je votais, moi aussi, pour désigner le meilleur d'entre eux. Citons par exemple Nicolas Carreau. Nicolas, qui en tant qu'expert littérature devrait être familier de l'expression « scier la branche sur laquelle on est assis » et qui pourtant, à chaque fois qu'il en a l'opportunité, me met un petit taquet, comme avec Ludivine Sagné.
Vous aimez Noël, Ludivine ?
Ouais.
Elle a compris Mathieu Noël.
Eh bien, Nicolas Carreau, vous partez donc d'office avec moins un point. Mais notre invitée Mathilde Amé est toutouie. Parlez-nous donc des 4 filles du Docteur March.
Mais oui, puisque donc les...
Que je n'ai pas lu, je l'avoue, je le confesse.
Du Docteur March, oui, mais c'est comme tous les classiques. Vous ne l'avez peut-être pas lu, mais vous les connaissez quand même. Vous savez par exemple qui est Joe.
Non,
c'est, bah si,
non, c'est je suis nul bon, sur les 4 filles de Dr. March. Vous avez tout à m'apprendre.
Alors, immense classique, le titre en anglais, ça je l'ai appris à l'occasion du travail sur cette chronique, c'est Little Woman.
Non.
Ah bon ?
Ouais, c'est marrant. Publié en 1868, maintenant, question piège, qui est l'auteur ? Louisa May Alcott. C'est dingue, personne ne connaît l'auteur des 4 filles du Dr. March. Non mais n'ayez pas honte, c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Louisa May Alcott, elle est complètement inconnue alors qu'elle a été publiée en France chez le même éditeur que Jules Verne. Peut-être aussi parce que c'est son seul succès ou peut-être parce que son roman Les 4 filles du Dr. March est tellement puissant qu'il a fini par effacer l'auteur elle-même. Peut-être aussi parce que c'était une femme et fin du 19e.
Bon, voilà.
L'histoire, je vous rappelle, nous sommes aux États-Unis dans le Massachusetts. C'est la guerre de sécession. Le Dr. March a été mobilisé par l'armée du Nord et ses 4 filles et leur mère restent donc à la maison. 4 filles avec chacun un caractère différent. C'est sans doute l'une des raisons du succès du livre. Chacun peut s'y reconnaître, même si la plupart des filles veulent être Jo, la cadette, n'est-ce pas, Eva Rock, la plus aventurière, la plus libre. Il y a Meg, l'aînée, 16 ans, celle plus raisonnable. Puis il y a Bess, douce et gentille. Et Amy, 12 ans, Amy. La dernière, c'est la reloue. Orgueilleuse, capricieuse. On les observe évoluer, on suit leur péripétie quotidienne et amoureuse.
Mais à vous écouter, on dirait un roman jeunesse. En fait.
Mais oui, mais même si, comme tous les grands romans de littérature jeunesse, on peut les lire adultes avec un autre regard. Et ça marche aussi bien. Greta Gerwig, donc, qui adapte les 4 filles du Dr. March, dit ceci. Jo March m'a donné confiance et envie d'écrire. C'est grâce à elle que je suis derrière la caméra. C'est pas rien quand même. C'est encore très moderne. C'est même pour beaucoup un manifeste féministe. une émancipation. Pour l'époque, c'était carrément transgressif. Et voilà, ce sont des romans qui traversent les générations, finalement, comme La Comtesse de Ségur, par exemple, des livres qui peuvent encore être lus tels quels par les enfants d'aujourd'hui. Mais il y a une tendance nouvelle dans la littérature classique jeunesse, c'est la mise au goût du jour. Par exemple, Le Club des Cinq, vous connaissez, ah, David Blyton, a été retravaillé. Avant, on pouvait lire des phrases comme « Claude Dorcel était pensionnaire dans le même lycée que sa cousine Annie Gauthier et d'habitude, elle passait les vacances avec Annie et ses frères. » Le même livre, 60 ans plus tard, « Claude Dorcel est interne dans le même collège que sa cousine Annie Gauthier. Généralement, elles passent leurs vacances ensemble en compagnie des frères d'Annie. »
C'est pas au même temps.
Et non, ils ont enlevé l'imparfait et le passé simple au profit du présent de narration, beaucoup plus moderne.
Bah, c'est plus moderne, alors, mais voilà. C'est moins complexe, alors, c'est dommage.
Voilà. On a hurlé, etc. partout quand on a lu ça. Mais bon, Le Club des Cinq, contrairement au Docteur March, par exemple, ce sont des livres écrits à destination uniquement des enfants, sans visée littéraire particulière. C'est pas la même puissance quand même. Donc on peut se dire que, oui, effectivement, ça permet à des enfants de redécouvrir Le Club des Cinq. Voilà, ce serait dommage pour La Comtesse de Ségur, par exemple, parce que ça va vraiment avec l'ambiance. Mais pour Le Club des Cinq, ça marche. En revanche, il y a aussi les Misérables, par exemple. Il y a des versions maintenant abrégées.
Oui, il y a des versions simplifiées des Misérables.
Ah oui, c'est pareil pour Les Trois Mousquetaires, pour Monte Cristo, etc. C'est vrai que c'est des livres très, très, très volumineux qui peuvent faire un peu peur aux plus jeunes. Et donc, Les Misérables, on s'autorise à l'abréger. Moi, c'est presque mon roman préféré au monde, mais quand même, il y a des passages sur Waterloo où il fait 60 pages sur comment s'est passée la guerre de Waterloo qui n'ont rien à voir avec l'intrigue ou comment marchent les égouts de Paris, etc. Ça, il l'enlève dans la version abrégée et franchement, moi, je trouve que même adulte, on peut lire sans ça, on peut sauter ces pages-là.
Positionnement courageux de votre part, Nicolas. Anne, une analyse pondérée et fair-play de la chronique de votre adversaire.
Pas bien.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1, L'Équipe est sauvage.
Ce mardi, Mathieu Noël accueillait le comédien Jonathan Lambert à l'occasion de la série Fête des Gosses sur France 2 qui a démarré ce mercredi. Au menu de cette séquence, il y aura aussi le quiz face à Eva Rock et ce sera un quiz musical.
Aujourd'hui, un acteur exceptionnel. Comédien pur, capable de tout jouer. Mais quand je vous dis tout, tenez, Jonathan Lambert, ça vous fait quoi de retrouver Eva Rock que vous avez croisée dans le club de l'été en juillet dernier ?
Elle est louissante parce que tout devient drôle, elle est pétillante, c'est moi j'étais très très heureux de la retrouver.
Quel acteur Jonathan Lambert, que
mais
vous retrouvez.
Mais surtout de qui je parlais ce jour-là.
Alors, de qui vous parliez? Vous parliez de non, non, de la fille géniale qui joue avec vous dans Peplum, qui joue Cléopâtre.
Oh là là, j'adore.
Eva.
On va. Bien sûr que non, c'était truqué, vous imaginez bien. On parlera tout à l'heure de Peplum.
Nadia Rose.
C'était un bon kiff ça.
Nadia Rose qui est extraordinaire.
Pour l'instant, vous venez nous voir pour la nouvelle série de France de Fête des Gosses, demain soir, en prime time. Ça veut dire quoi aujourd'hui en prime time, Eva? C'est de plus en plus tard maintenant.
21h05.
21h05.
Oui. Ah, et ne râlez pas parce qu'on n'y est pour rien.
C'est vrai, j'étais en train de communiquer sur 20h50, donc je suis complètement à la strada.
C'était avant.
21h05.
Vous êtes quel genre de père dans la réalité, Jonathan Lambert? Parce qu'on a du mal à vous imaginer, vous êtes tellement truculent dans qu'humoriste. Est-ce que vous êtes au contraire, vous prenez l'exact contre-pied, vous êtes un père strict?
Non, mais parfois, oui, ça peut poser problème. C'est-à-dire que c'est un métier où on ne voit que la partie fun du truc et évidemment derrière il y a je bosse quoi je pas donc parfois je pense que ça peut être troublant pour des mômes de se dire mon père il fait le con à la télé sur scène ou quoi et ils ne peuvent voir que ça parfois ouais.
Eva,
ils vous ont vu dans certains sketchs vos enfants? Notamment,
j'espère, oui.
Je pense à Damien Bézé.
Non, j'ai coupé Internet à la maison. Donc, Non, bah après, oui, je vais pas m'en cacher. Je ne leur montre pas, mais j'imagine qu'ils découvriront.
Attendez, ils ont quel âge vos enfants?
Ils sont plus âgés que moi en fait. Pour ça, je me pose des questions. Il y a un truc, je me demande s'il n'y a pas une histoire de pognon derrière. Ça me paraît très très bizarre.
Il paraît que plus jeune, vous aviez un groupe de rock, Article 1.
Oh bravo, c'est vrai.
Pourquoi déjà ce nom? Ça faisait référence à quoi?
Bah, j'étais toujours fasciné par tout ce qui était un peu suprématiste, la pole position 1. Ah. Je cherchais toujours des trucs comme ça. Voilà, Article 1, il y avait un côté très, je sais pas, ça impose quelque chose. Voilà, ça veut rien dire, hein, mais voilà.
Et c'était très rock, c'était hard?
Non, c'était rock, c'était pas ni hard ni soft, c'était rock. Ouais.
Pour elle, la musique est tout. Génétiquement dotée de l'oreille absolue, Dame Nature ne lui a hélas pas fourni la justesse absolue.
Arrêtez avec ça.
Eva Rock, Eva Rock va maintenant vous défier, mon cher Jonathan Lambert. Oui, nul ni coupe, c'est l'heure du quiz. Quiz musical. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons rendre hommage à Damien Bézé, un personnage que vous incarniez à la télévision et qui avait quelques petits soucis avec la gente féminine. Le principe est simple, Jonathan Lambert. Nous allons écouter des chansons romantiques. Quelques mots seront inaudibles à cause de Damien Bézé. À vous de retrouver les paroles. Comme les titres ne sont pas très connus, je vous fais trois propositions à chaque fois. On commence avec vous, Jonathan. Vous jouez avec Hervé Villard. Mieux vaut ça que l'inverse.
Elle était là et l'on faisait des projets. Elle...
Elle était là et on faisait des projets. Elle. Elle et moi, nous nous plaisaient. Elle, c'était moi que je l'aimais. Elle, tu vois, au moins, elle s'appliquait. Oh. Trois propositions.
Bah, j'ose imaginer qu'il est pas mauvais en lexique, en vocabulaire, tout ça. Donc la troisième, ouais. Non,
vous imaginez mal. On écoute la réponse.
Elle, c'était moi que je l'aimais.
Et oui, on embrasse
mais
Hervé.
Ouais, mais c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Non, mais c'est un
oui.
défi.
Parti pris. Ouais. On continue avec vous, Eva. Vous jouez avec Patrick Bruel, ce qui est déjà une preuve de courage.
Petit jeu de regard à travers le miroir. Un whisky, pourquoi pas.
Petit jeu de regard à travers le miroir. Un whisky, pourquoi pas. Ou alors juste un doigt.
Voilà.
Japonais de surcroît, un massage tonkinois.
Alors, la première, on va éliminer malheureusement, parce qu'elle me fait beaucoup rire. C'était quoi, whisky
non, japonais de surcroît, japonais un de surcroît. Massage tonkinois.
Ouais, japonais de surcroît. C'est un,
japonais
c'est...
de surcroît.
Mais oui, parce que c'est des grands whisky, les whisky japonais.
Vous pensez à Patrick Bruel à chanter.
Bah oui.
On est
un whisky, pourquoi pas. Japonais de surcroît.
Et bonne réponse. Comme quoi, Patrick Bruel est vraiment insaisissable. Bravo, Eva. Jonathan Lambert, c'est à vous. Voici Herbert Léonard.
Accepte-moi tel que je suis, même si chaque homme a ses faiblesses.
Oh, vous m'avez fait peur, Jonathan, sur ce coup-là. Moi, si chaque homme a ses faiblesses, elle, elle n'était qu'une paire de fesses. Elle tient debout la forteresse. Elle n'était pas mal la traîtresse. Ça, c'est pour Jonathan.
Elle tient debout la forteresse.
Oh, elle oui. tient debout la forteresse.
Ah, oui. Ah, oui, vous êtes sûr de vous. Sans aucune hésitation. Moi, je l'aurais écrite comme ça, la chanson.
Alors, si vous l'auriez écrite comme ça, on l'écoute.
Elle tient debout la forteresse.
Bah oui, c'était ça.
C'est
c'était...
la bonne réponse, bah évidemment. Oui. Ouais. On ne la fait pas à Jonathan Lambert. Yeah. Et on termine avec le chanteur le plus romantique pour vous, Eva. Francky Vincent.
Tu veux au zizi. Oui, 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 oui. Je vais te le donner, oui, 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 oui. Viens ce soir dans ma cabane.
Baiser.
C'est sûr que... Viens ce soir dans ma cabane, Eva. Je t'offre un sucre de canne.
Oh non. Allez-y.
Voir ce qu'il y a sous la soutane. Tu ne connaîtras pas la panne.
Non, non, c'est le sucre de canne.
C'est la 3.
Mais Charlie, vous ne jouez pas.
Mais Charlie,
mais vous n'avez pas le droit.
Mais l'info, c'est surtout que c'est qu'elle... j'ai l'impression qu'il connaît la chanson.
Je connais la chanson.
Mais mon Dieu.
Il s'occupe du cinéma et des grands auteurs. Sur... Voilà.
Écoute, non, alors, en toute honnêteté, j'aurais dit le sucre de canne.
Vous auriez dit le sucre de canne. Et bien, je vais vous dire, moi, je l'aurais écrit comme ça aussi.
Ce soir dans ma cabane, tu ne connaîtras pas la panne.
Voilà, il a fait l'autre choix, Francky Vincent. Ouais. Tu ne connaîtras pas la panne. Qui remporte ce quiz, les amis? Égalité, bravo à tous les deux. Jonathan, entre nous, vous avez trouvé comment Eva sur ce quiz?
Oui, non, en fait, je pense que ce qu'il y avait, ce qu'il y avait un petit peu... Comment dire enfin, il y avait... c'était pas évident.
Oui, oui, te casse pas, j'ai compris.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Avec Mathieu Noël, toujours, on apprend, on se détend et le week-end, eh bien, on peut revivre les moments essentiels de la semaine passée. Lundi, en la présence de Florence Servan-Schreiber, professeure de bonheur, l'un de nos correspondants en région nous a parlé d'une solution préventive de protection anti-drogue pour les habitués du monde de la nuit, mais pas que.
Vous connaissez la drogue du violeur, le GHB, cette substance qui induit une amnésie passagère qui va permettre au violeur d'abuser de sa victime sans risquer de poursuite. Pour contrecarrer les plans de ces infâmes jojos, certains ont réfléchi et ont dégainé, ça vient de sortir, le capuchon anti-drogue. Bonjour Lionel Gougelot.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors pour ceux qui craignent d'être drogués à leur insu en boîte de nuit, plus la peine d'avoir peur donc, deux Lillois ont trouvé la solution imparable. Cette solution c'est...
Le Drink Watch. Le Drink Watch, je vous explique, c'est un petit capuchon de silicone, légèrement élastique, hein, que l'on peut fixer sur le verre, donc, et bien pour empêcher qu'une main malveillante, effectivement, ne verse une drogue ou un produit quelconque dans votre verre, dans l'obscurité de la boîte de nuit, par exemple.
Drôle d'idée quand même, Lionel.
Ouais, franchement, c'est exactement ce que je me suis dit en découvrant cette invention. Alors, c'est intéressant quand même, mais enfin, quand même, faut savoir que les les deux inventeurs, donc c'est Antoine Dehaye et son père Francis, c'est des professionnels de la nuit. Francis, par exemple, il tient une boîte de nuit à Lille. Eh bien, ils se sont rendus compte que de plus en plus de clients, en soirée, mettent effectivement leurs mains par-dessus leur verre. Alors, c'est vrai qu'on a tous entendu parler de ces affaires d'agression sexuelle par GHB, hein, ou même ces histoires de fêtards un peu drogués, un peu stone, qui se font dévaliser à la sortie des boîtes ou en soirée. Alors, Francis et Antoine ont eu l'idée d'inventer ce petit capuchon de protection anti-drogue, un film de silicone avec un trou pour glisser une paille quand même. J'ai rencontré Antoine et il m'a fait une petite démo.
En deux temps, trois mouvements, vous avez votre capuchon sur votre verre, sur toutes les tailles de verre et tout type de contenant.
Alors, on peut mettre une paille, mais on peut aussi le boire presque comme une tétine, quoi. Enfin...
Donc, on a pensé à la tétine parce que la paille va être enlevée du commerce, de la commercialisation. Donc, du coup, nous, on a pensé à une petite tétine. Vous pouvez boire directement la tétine. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours mettre une paille en carton, en métal. Mais sinon, vous avez cette petite tétine avec un débit raisonnable.
Quelle que soit la boisson, même pétillante, de la bière, etc.
Ouais. Exactement. Vous pouvez mettre de la bière. On a fait des tests avec la bière. On a fait des tests avec le coca, avec les whisky coca, par exemple. On a un petit trou aussi qui est pour l'appel d'air. Donc, du coup, vous n'avez vraiment aucune gêne à boire du pétillant.
Bah, c'est parfait, ça va permettre enfin Eva d'éviter de renverser sa bière quand elle danse sur le bar, hein, souvent topless, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc, c'est, au moins ça va servir à ça.
J'y ai pensé aussi, figurez-vous.
On y a tous pensé.
Alors il y a aussi un autre aspect qui est peut-être moins évident mais qui a été remarqué par nos deux amis. Ça permet aussi d'éviter des bagarres déclenchées pour, vous savez, un simple verre renversé sur une chemise. Il paraît que ça arrive souvent.
Bien sûr, moi ça m'est arrivé déjà.
C'est vrai, vous êtes battu
parce
que
bastons
qu'on vous a renversé un verre.
Ah, attendez, quand on renverse quelque chose sur ma Célio, je peux vous dire que tout de suite je monte dans les tours. Alors ces Drinkwatch, est-ce qu'ils seront bientôt en vente, Lionel ?
Alors plus exactement, Antoine et Francis envisagent de vendre en fait cette invention aux patrons de boîtes ou aux organisateurs de festivals qui eux-mêmes les distribueront à leur clientèle. Ça sera disponible d'ici la fin du mois de février ou début mars.
C'est une super idée. Merci beaucoup, Lionel Gougelot. Comme quoi, dans le Nord, on a beaucoup d'idées. Merci à vous.
Bonsoir les amis, à bientôt.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël, Eva Roquet, Stéphane Place nous emmènent à présent sur le bassin d'Arcachon où les sapins de Noël servent désormais à consolider les dunes. Jeudi, il faut le dire, l'équipe est sauvage, c'était un peu la vie aquatique puisque l'invité était le plongeur Laurent Balesta. L'équipe est sauvage donc pour découvrir le monde et parfois trouver des solutions.
Eva, vous le savez, le bassin d'Arcachon est confronté à un gros problème. La dune s'érode sous l'action de l'océan. Comment consolider cette dune ? Heureusement, Eva, certains se montrent plus ingénieux que vous. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Oh mon sapin, tu n'es plus un beau sapin. L'heure est venue, après les fêtes, de se débarrasser de notre arbre de Noël tout sec.
Ah, vous avez la note, hein.
Comment le valoriser de façon intelligente à la tête de bûche ? C'est comme ça qu'on dit ?
Non, pas on du dit tout. À la teste de bûche.
À la teste de bûche, autant pour moi. Sur le bassin d'Arcachon, on a trouvé la solution. Les vieux sapins de Noël vont permettre de restaurer les dunes du littoral.
Oui, c'est une initiative de la municipalité girondine et de l'Office national des forêts. Phase 1, on collecte les sapins de Noël en mettant à la disposition des habitants des bennes pour les récupérer. Phase 2, ces sapins sont réduits à l'état de branchage et dans une semaine, un chantier participatif est organisé avec les enfants de la commune pour déposer ces branches sur les dunes érodées et donc les restaurer, tout simplement parce que cette couverture obtenue à partir des sapins piège les sables qui sont en mouvement durant l'hiver. Là, je distingue le regard pétillant d'Ève qui a tout compris.
Oui.
J'ai un doute vous concernant, Mathieu. Vous avez suivi ? Je vous ai perdu ?
Vous foutez de ma gueule ? Je suis hyper concentré. Je suis un monstre de concentration.
Bon, très bien. Alors, vous savez quoi ? Pour devenir complètement lumineux sur la question, on va écouter Dominique Ducasse, l'adjoint au maire de La Teste de Bûche, en charge de l'environnement.
Ces sapins vont être découpés en petits morceaux, posés sur la dune fragile, de façon à ce que dans quelques mois, le sable se soit accumulé dans ces branchages. En quelques mois, on aperçoit autour de chaque sapin un monticule de sable, qui est un futur lieu pour planter des petits zoyas ou ces petites plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau et qui retiennent le sable avec des racines extrêmement longues qui viennent fixer l'érosion. Et ainsi, tous les enfants de la ville qui ont déposé leurs sapins se seront appropriés cette défense de la côte contre l'érosion et l'invasion par les sables. La dune est un milieu extrêmement fragile, extrêmement intéressant sur le plan faune et flore, mais qui est en destruction permanente. Il faut respecter des couloirs de pénétration vers la plage, pas descendre les dunes. D'abord, c'est dangereux parce qu'on a une érosion avec des petites falaises verticales de sable qui sont dangereuses. Mais en plus, c'est un lieu vraiment important pour la protection.
Et voilà, Mathieu, il faut arrêter de dévaler la dune en hurlant de joie, la barbe au vent, à rimer à votre bouée canard. On vous a déjà dit qu'il fallait arrêter de le faire.
Bien sûr, bien sûr. Et respecter les couloirs de pénétration, c'est ça que j'ai noté, très important pour Eva.
Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr que vous alliez le relever, ça. Voilà, j'étais convaincu.
D'ailleurs, Eva veut intervenir là-dessus.
Oui, et respecter aussi les prénoms des collaborateurs, parce que moi, c'est Eva et pas Eve. Stéphane Place.
J'ai dit Eve.
Bah oui, mais écoutez, c'est pas grave.
Bon, bah, très bien, mais à culpa, Maxime, à culpa. En plus, vraiment, j'avais écrit correctement votre prénom, je vous assure.
Vous savez quoi, Stéphane, elle est plus à sa près.
C'est vrai.
Merci beaucoup, Stéphane Place.
Et je vous embrasse.
Correspondant d'Europe 1 dans
moi
le Sud-Ouest.
Aussi.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Avec Mathieu Noël, hein. Vous savez que c'est tous les jours, l'équipée sauvage, même le week-end. Mercredi, Mathieu Noël accueillait Isabelle Nanty.
C'est Isabelle Nanty qui nous accompagne aujourd'hui pour fêter le retour à la fin du mois de Munch, la série de TF1. On parlait, Isabelle, d'un film, on parlait de Pef, qui a réalisé Faïm, il y a quelques mois. Très beau film, dans lequel vous donnez les répliques à Gérard Depardieu. On parlait, tout à l'heure, vous nous disiez, même après toutes ces années, j'ai l'impression de ne pas connaître la recette de la comédie, de savoir comment jouer. Face à Gérard Depardieu, on se sent comment quand on donne la réplique à Gérard ?
On n'emmène pas large.
Vous dites qu'il est bon dès la première prise, lui.
Oui, de toute façon, entre le moment où il rentre dans sa loge et le moment où il en ressort dans le costume, la personne qu'il va jouer est là. Avec beaucoup d'humanité, un regard... c'est très, très, très intimidant d'être dans le regard de Gérard Depardieu parce qu'il y a, beaucoup d'enfance, il y a beaucoup de souffrance. On n'a pas envie de le brusquer. Et moi, je me sens assez petite fille devant lui.
Et vous dites un truc étonnant, mais c'est lié à votre incroyable modestie. Vous dites que vous avez l'impression, comme vous, c'est pas à la première prise que vous arrivez à tout donner. Vous avez l'impression de lui faire perdre son temps.
Ouais.
Mais c'est, j'imagine que c'est toujours comme ça entre acteurs, non ? Enfin, quand on fait une.
Bon, des fois, c'est des conflits d'ailleurs.
Ah ouais ?
Mais pas là, parce que lui, il est élégant, mais.
Ah, ça doit être horrible. Il y a des acteurs qui parfois s'arrêtent et disent bon, quand est-ce que tu vas être au niveau ? Parce que moi, je suis déjà
parce qu'en fait, moi, je suis dyslexique. Donc, mon petit cerveau met, une ou deux prises à aligner toutes les données.
C'était pratique dans Astérix pour jouer Itinéris, du coup.
Ouais.
Bravo, belle intervention, Anissé. Quelle présence d'esprit. Eva avait bien aimé...
Quoi ? Oui, non, allez-y.
Je voulais juste dire que vous aviez, comme moi, aimé le film Faïm, un beau film engagé qu'on vous invite à découvrir quand il sortira en VOD.
Et qui va faire le tour du monde.
Et qui fait le tour du monde, vous nous le disiez en antenne. Elle aussi est une femme engagée, elle a un avis sur tout. Le problème, c'est que souvent, elle le donne. Comme on a encore pu le constater hier, quand elle est intervenue, alors que personne ne lui demandait rien, sur le papier d'Isabelle Horry, qui nous parlait de la Hollande et des Hollandais.
Toujours quelque chose à dire.
C'est le gouvernement à La Haye qui a très officiellement orchestré cette disparition. On ne pourra plus dire Hollande pour le pays des tulipes.
Je suis rassurée.
Eva Rock a
toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire.
Je suis rassurée, ça n'a rien à voir avec François Hollande.
Toujours quelque chose à dire.
Ces interventions sont
écoutez,
toujours pertinentes.
Voilà,
ces réponses durant le quiz, un peu moins. Isabelle Nanty, non mais n'essayez pas de vous justifier rien.
Quand une
situation est injustifiable, il ne sert à rien d'essayer de la justifier.
D'accord.
Isabelle Nanty, pour le quiz du jour, j'ai choisi un thème faisant directement référence à la série Munch, car nous allons jouer sur l'univers des procès. Certaines affaires sont déroutantes, à vous de me dire si les verdicts que je vais vous donner sont authentiques ou totalement inventés. C'est un vrai faux, vous jouez chacune votre tour. Eva, commence avec vous. Dans le Texas, Madame Robertson s'est foulée la cheville dans un magasin en trébuchant sur un enfant en bas âge. Elle a attaqué les gérants du magasin et a empoché 780 000 dollars de dommages et intérêts. Somme d'autant plus incroyable que l'enfant en bas âge était son fils. Vrai ou faux ?
Ah mince, ça c'est le dernier détail qui me gêne un peu.
J'aime introduire de la complexité
mais
dans
alors
mes
je
quiz.
Crains que ça soit vrai cette histoire.
Vous
je vais dire vrai, ouais.
C'est vrai, ça s'est passé en janvier 2000 dans un magasin de meubles. Isabelle Nanty. Dans un restaurant de Philadelphie en mars 2019, Amber Carson a bu un coca normal alors qu'elle avait demandé un coca zéro. Résultat, après un procès de 8 mois, 64 000 euros de dommages et intérêts. Vrai ou faux verdict ?
Vrai.
64 000 euros pour un...
Ça fait cher le coca, hein ?
Faux.
Mais
ça s'est passé en mai 2000, Amber Carson a obtenu 113 000 euros, mais parce qu'elle s'était cassé le coccyx après avoir glissé sur du coca qui était sur le sol, accrochez-vous, un coca qu'elle avait elle-même envoyé à la figure de son petit ami avec qui elle venait de se disputer. Voilà, mesdames et messieurs, la justice américaine.
Oh là là, ça fout la trouille quand même.
Isabelle Nanty et Varoc, vous jouez ensemble. Terence Dixon est cambrioleur. Il entre par effraction dans une maison, ce qui ne va pas l'empêcher ensuite de faire un procès au propriétaire, procès qu'il va gagner. Que lui est-il arrivé ? Trois propositions. 1. En portant une télé 16/9, il va se faire un lumbago. 2. Il va rester coincé dans le garage et va devoir manger la nourriture pour chien. Ou 3. Il se prend une haie de jardin au mauvais endroit, ce qui le privera de descendance. D'après vous ?
Alors peut-être que c'est l'histoire de la pâtée. Moi, j'irais l'histoire de la pâtée. Enfin, enfermé dans le garage.
Il s'est enfermé dans le garage.
Il est obligé de manger la
pâtée. Moi, je dirais la dernière.
Les coucougnettes.
Ouais. Bah, je pense que pour arriver à un tel degré d'aberration, s'il faut vraiment qu'il ait été blessé, le gars.
Ouais. Effectivement, quand vous allez découvrir la somme. Pourtant, vous avez tort, Isabelle. Il voulait sortir par le garage. Une fois la porte claquée, il ne pouvait plus retourner dans la maison. La porte automatique étant défectueuse, il est resté coincé 8 jours, ne se nourrissant que de croquettes pour chien.
Merde.
Le traumatisme a été avéré. $500,000.
$500,000
de dédommagement. Oh, le salaud.
C'est de la jurisprudence.
Imagine. Alors moi, je vais pour $500,000, je vous dis, je mange même la chair à saucisse d'Alice Mida.
Ah oui.
Enfin, je viens
oui,
celle
oui,
qu'il
oui.
a présentée tout à l'heure. Bref, Monsieur Évaroc. Monsieur Grazinski était très fier de son camping-car long de 10 mètres. Il a fait un procès au constructeur car cela n'était marqué nulle part que quand on s'endort dans les montagnes du Montana, il faut mettre le frein à main. Résultat. $1,750,000 de dommages et intérêts. Vrai ou faux verdict ?
Non, c'est faux. Non, c'est faux.
C'est faux ?
Ah oui.
Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, Eva. C'est faux, mais c'est pire. Mais c'est pire.
C'est pas possible.
Ah, c'est pire que ça. Il conduisait à 110 km/h, puis il a quitté le siège pour se faire un café à l'arrière, pensant qu'on pouvait le faire. Monsieur Gradinski a fait plusieurs tonneaux. Au procès, il a bien gagné €1,750,000 et un nouveau camping-car de la marque Winbagoo. Depuis, dans le guide d'utilisation de la marque, c'est marqué noir sur blanc qu'il n'y a pas de pilotage automatique.
C'est pas possible.
Voilà où nous en sommes. Isabelle Nanty, attention, c'est la question qui va vous départager. Arturo Carvajal est d'origine cubaine. Dans un restaurant de Miami, il commande un plat dont il n'avait jamais entendu parler, l'artichaut. Problème, comme il n'en a jamais entendu parler, il n'en a jamais vu, il va tout manger. Ensuite, il va attaquer l'établissement. Vrai ou faux procès ?
C'est dans Munch.
Ah ouais !
Incroyable !
C'est dans Munch.
Eh bien oui, vrai procès. Un accord secret a été trouvé. Son avocat a expliqué qu'il fallait vraiment être un connaisseur pour savoir manger l'artichaut. Ouais. Arturo a tout mangé. Pendant le procès, il avait encore des feuilles dans son intestin qu'il tentait de digérer.
Voilà.
Eh oui, Munch revient sur TF1 à la fin du mois pour une troisième saison. Isabelle Nanty, qui ne remporte pas le quiz parce qu'elle est tellement polie qu'elle a laissé Eva gagner.
Solidarité féminine,
solidarité
vous avez vu comme
féminine,
ça marche
peut-être.
Parfois.
Isabelle Nanty, notre invitée cet après-midi.
Europe 1, 16h-18h, L'équipe est sauvage.